Ah là là, les amis, quelle excellente soirée pour se rappeler que si un pote vous dit j'ai peut-être un truc de prévu, je te reconfirme. C'est juste qu'il attend de savoir s'il a un plan mieux que vous pour occuper son temps. Ouais. Voilà. Bienvenue dans le podcast Road to 10 Million. Je vais essayer d'en démarrer de plus en plus avec des observations pleines de naturel et que vous avez certainement déjà rencontré. Dites-vous que si cet ami enfin, si vous étiez Mbappé, votre pote vous aurait pas reconfirmé, n'aurait pas dit attendez, je vous reconfirme. Voilà, bon, bref, je suis excellemment content de vous voir. Je suis désolé de ne pas avoir pondu de podcast hier, mais bah, j'étais cuit, c'est très simple. Parce que bah, c'était, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, hein, c'était le fameux 10 km, celui que je prépare depuis tant de temps, que j'ai couru et dont je vais vous révéler l'issue dans cet épisode. Mais avant, pour les nouveaux, faisons tourner l'introduction de ce podcast Road to 10 Million. Bienvenue dans le podcast Road to 10 Million. Je suis Théo Lyon, j'ai 26 ans et je suis le fondateur de Koudak, mon groupe d'agence. Il y en a 5 exactement dans le groupe. Putain, faut vraiment que je change cette phrase, je l'ai toujours pas changé. Qui atteint. Putain, ça nique toute ma phrase, ça nique toute ma phrase. Mon groupe d'agence qui a atteint plus de 417 000 euros de chiffre d'affaires mensuel et plus de 62 salariés. C'est pas bien, mais je le corrigerai la prochaine fois si j'y pense. Et sinon, je suis une merde. Donc, l'étape suivante, c'est de l'emmener à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et c'est ce challenge qui donne le nom au podcast. J'ai pour objectif de le faire avant fin 2024. Et dans cette émission, je me sers de mes expériences personnelles, rencontres et lectures diverses pour vous apprendre comment atteindre le top 1% dans ce que vous faites. J'essaie de faire en sorte que vous terminiez chaque épisode en ayant appris au moins une chose qui vous aide à grandir plus vite ou plus loin. Parce que le principe de base d'un business, c'est qu'avant de chercher à le scaler, il faut d'abord chercher à se scaler soi-même. Et c'est ça que je vous aide à faire. Bienvenue dans l'épisode 30 de Road to 10 Million. Ça file à une vitesse. Déjà l'épisode 30. C'est-à-dire 30 semaines d'assiduité sans compter les hors-séries. On célébrera évidemment la première année d'anniversaire de ce podcast. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos retours sur l'épisode précédent, la Masterclass Agence, qui est presque bah, l'un des plus écoutés en 8 jours. Donc ça confirme que dans le public, vous êtes beaucoup à vous engager dans des business de service. Peut-être, je dis bien peut-être, qu'on fera une version du Discord. Un peu plus orienté pour répondre aux besoins des fondateurs d'agence. Bon, ça coûtera plus cher hein, parce que ça me prendra plus de temps. Mais pour l'instant, je n'en dis pas plus. Vous n'avez rien entendu, ne le répétez à personne. En parlant du Discord, du coup, il est officiellement fermé. Merci beaucoup à tous ceux qui ont candidaté. Je vais aller vérifier, mais je crois qu'on a eu combien? 165 personnes qui ont rejoint. J'en ai sélectionné une quarantaine. Je crois qu'on est 38 ou un truc comme ça. Donc, je suis désolé pour les autres, mais bon, je vous avais prévenu que ça serait sélectif. Donc, n'hésitez pas à recandidater le trimestre précédent. C'est pas du tout contre vous, c'est juste pour préserver disons, un esprit un peu de similarité entre les gens qui sont dedans et qui ont déjà passé ce premier cap d'amorce d'un business, qui ont déjà fait la preuve, qui sont capables d'amener un truc de 0 à 1, parce que il y a vraiment deux catégories. Il y a les gens qui n'ont pas encore lancé de truc et qui veulent se lancer, qui sont à une étape qui est non moins importante, mais juste très différente du stade d'après. Qui sont des personnes qui ont déjà fait sortir un truc de terre et qui ont besoin de l'accélérer. Moi, c'est cette seconde catégorie de personnes que j'aide le mieux. La première catégorie, je sais que c'est une étape qui est tellement personnelle que c'est assez dur d'être un mentor là-dessus et qu'il vous faut plus des trucs mindset, etc. Et je pense qu'il y a d'autres créateurs de contenu qui vous serviront mieux. Voilà. Donc, bienvenue dans Road to 10 Million. Merci beaucoup pour vos retours sur la Masterclass Agence. Ça fait qu'on a fait, je vous le dirai dans les chiffres juste après, mais on a fait une semaine record. C'est la semaine avec le plus d'écoutes du podcast. J'ai envie de vous le dire maintenant, tellement stylé. On a fait 8 000 écoutes. 8 000 écoutes, ça nous amène à 117 000. Le but, c'est d'arriver à 200 000 à la fin du Q1. Il va falloir qu'on en répète des semaines comme ça, mais c'est super. Voilà, parce que donc en plus, il y a eu le hors-série avec mon associé Paul, qui est sorti aussi sur YouTube, si vous voulez la version vidéo. Donc, je suis content d'avoir pu l'amener avec une bonne qualité de son dans Road to 10 Million. Surtout que j'ai pu me faire réagir à des idées que j'avais déjà partagées dans le podcast. Donc, j'étais très content de pouvoir vous partager ces apprentissages. Sage comme il est. J'ai trouvé ces remarques très pertinentes et je pense qu'elles vous seront assez utiles. Donc, allez écouter le hors-série, là. Je sais plus comment je l'appelais. J'ai dû l'appeler. Ah oui, si, je l'ai appelé mon associé Paul, étale sa science sur les pendules à l'heure. Génial ça. Parce que c'est ça, c'est exactement ça. Il étale sa science et il donne de très bons insights complémentaires. D'ailleurs, vous avez été quelques-uns à me dire en commentaire sur YouTube principalement que il fallait qu'on pousse un petit peu plus le délire de faire monter des fondateurs des autres agences. Donc je vais essayer de prendre ça en compte tranquillement. Ça va mettre un peu de temps à arriver, soyez pas trop impatients, mais c'est bien noté. Donc cette semaine, on va partir sur une trame classique. d'un retouté de millième. Ça veut dire que ça commence par les actus, puis les pendules à l'heure. J'en ai exactement 10 cette semaine à vous partager. Puis on fera le meilleur de la semaine, 3 contenus dans cette section. Et puis à la fin, je répondrai à la FAQ avec en priorité les questions des membres du Discord et après les questions que vous m'avez posées sur Instagram si j'ai le temps. Voilà, vous trouverez toujours en description de ce podcast le lien vers la newsletter dans laquelle j'envoie au milieu de la semaine une petite synthèse des contenus de chaque épisode. Si vous voulez vous y abonner et vous faire une petite piqûre de rappel, ça vous fera pas de mal. Voilà, donc c'est dans la description. Et il y a toujours le lien vers le Discord. Alors, ce qu'on va faire, c'est que malheureusement, donc les inscriptions sont finies et elles réouvriront fin mars, donc pour le second trimestre de 2024. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous voulez, aller mettre votre présentation et puis je ferai un petit check-up à ce moment-là et je vous ferai évidemment un rappel dans l'épisode de RTTM. Donc, vous pouvez toujours aller le mettre, c'est juste que vous ne serez pas sélectionné avant le début du trimestre prochain. Voilà, donc commençons par la partie actu. Alors, deux choses à vous partager cette semaine. La première, c'est que j'étais la semaine dernière à la Founders Retreat. Donc, Founders Retreat, c'est quoi ? C'est un petit moment qu'on se donne avec mes associés pour se retrouver en physique, parce que vous savez qu'on est une boîte en remote, donc on n'a pas beaucoup de moments qu'on partage en face-to-face. Donc là, on se retrouve, on s'est retrouvé le temps d'une semaine. Moi, je suis rentré un petit peu plus tôt parce que j'avais un appel d'offres à faire, mais je suis resté quand même 4 jours. Donc, le principe est très simple, c'est une baraque à la campagne, et pas beaucoup d'activités et souvent une dégustation de vin chez un viticulteur. Donc là on a bien tenu le plan, il est extrêmement froid, on est parti dans le Jura, c'était trop bien parce que il faut le reconnaître, il y a beaucoup de connexions neuronales et d'idées qui germent quand on est en physique. Alors est-ce que ça compense tous les inconvénients de travailler 100% du temps dans des bureaux et avec toutes les déconcentrations qui en découlent? Je ne sais pas, là n'est pas la question, mais c'est juste que c'est important d'avoir des moments pour les deux. Et donc là, plein d'idées ont pu être mises en commun. Et donc c'était trop cool. Et ce qui est très sympa en fait avec ce genre de retraite, et c'est la raison pour laquelle on prend des trucs souvent, bon, on l'a pas fait exprès, mais on est bien content d'aller dans des trucs un peu reculés, au fin fond de la France, c'est que tu n'as pas d'autre choix que de parler. donc les premiers jours, tu prends les « salut, ça va », etc. Enfin bref, tu fais les sujets classiques dont tu as envie de parler directement, et ensuite bah tu viens à parler de sujets un peu plus personnels. Et c'est là où ça devient intéressant. Je trouve ça super. Tu peux avoir des discussions un petit peu plus profondes avec les gens sur pourquoi ils font les choses. Enfin, tu apprends vraiment à te connaître et il y a un avant, un après ce genre de petite semaine. Donc c'était super. Ça permet aussi un petit peu de retirer les filtres. Ce qui est cool quand tu te retrouves avec des associés, c'est que tu as que des personnes qui ont des parts d'un business. Donc ça veut dire qu'ils en sont souvent les gérants. Et donc tu peux dire les trucs avec un petit peu moins de forme que tu aurais pu les dire dans... des discussions où il y a des personnes qui ont peut-être des responsabilités dans ta boîte, mais que tu payes, qui sont tes employés. Et c'est très complémentaire, en fait. Tu as besoin aussi de ces moments-là où tu peux avoir une perspective un peu différente avec des gens qui ont un angle un peu similaire au tien. Donc, je vous recommande, si jamais vous avez des associés, de vous prendre des moments juste entre vous et de changer d'environnement. Donc, le principe pour que ça marche, c'est changer d'environnement. Vous n'êtes pas obligé de faire comme nous. Et changer d'environnement et n'allez pas pour, par exemple, faire du ski. Parce que, bon, à moins que vous vouliez vous amuser, nous, on y va vraiment, on travaille hein, toute la semaine, c'est pas des vacances. Et juste, on travaille les uns à côté des autres, donc ça veut dire qu'on entend les calls et tout aussi. Enfin, il se passe plein de trucs assez aléatoires pendant cette semaine qui sont de haute valeur. Voilà, donc on va le faire tous les trimestres, faites-le et passez juste du temps ensemble dans un environnement différent, je pense que ça suffit. Et on avait fait des trucs, je vous en avais parlé, à la précédente, où j'ai déjà... Je ne sais plus quel épisode... Bon, vous devez remonter, je pense que c'était il y a un trimestre, donc assez facile. C'est qu'on avait fait... on était venu avec un thème. À l'époque, on avait fait, je crois que c'était les 5 dîners des associés. Donc avec un certain nombre de questions que tu dois poser chaque soirée. On était restés 5 soirs, donc on avait pu parler de plein de choses. Des ambitions financières, personnelles, etc. C'était super. Donc vous pouvez arriver avec un petit thème, ça marche. Voilà. Donc ça, c'était pour la Founders Retreat. On a fait la dégustation de vin. Bon, alors là, c'était vraiment très original. Souvent, c'est Paul qui nous trouve un viticulteur sorti de nulle part avec qui il est pote et qui nous ouvre la boutique juste pour nous. Donc ça avait été le cas quand on était parti en Vendée. C'est chez lui par là-bas, donc c'est pour ça qu'il connaît les gens. Là, c'était plus original. On était vraiment au fin fond du trou du cul du Jura. Et il se trouve que Monsieur Pimor avait le grand-père d'un ami qui habitait à genre 5 minutes en bagnole de là où on était. Mais on était vraiment au fin fond du trou du cul du monde. Donc on est parti faire une dégustation de vin dans une maison random vraiment et on a été accueilli par Jean-Pierre. Jean-Pierre qui avait préparé une table magnifique et qui nous a fait goûter plein de vins jurassiens qui étaient excellents, tout en nous faisant un petit peu des leçons de vie, puisque Jean-Pierre était un entrepreneur la majorité de sa vie. Et là, il l'est toujours d'ailleurs, parce que donc, ouais, il est associé dans une boîte de vin, quoi. C'est son métier. Et donc, il nous a envoyé un certain nombre de punchlines, dont une qui fera l'objet d'une pendule à l'heure. Je vais vous la dire maintenant pour vous teaser un petit peu. C'est quand il n'y a plus de foin dans les ateliers, les ânes se battent. Ah putain, ouais. Il nous l'a dit vraiment à la fin de la soirée, quand on avait descendu je sais pas combien de bouteilles. Ça avait de la gueule, franchement, quand il a envoyé. Donc voilà, la Founders Retreat, je vous recommande. J'ai passé un excellent moment, ça me fait une petite coupure, très cool. Donc, c'était aussi la dernière semaine de préparation, enfin, c'est plutôt la semaine de repos avant la course, celle où tu fais pas trop d'entraînement et tu te prépares à faire un gros temps. Donc, mon 10K a eu lieu hier. J'ai pas trop pu... je me suis pas trop entraîné, mais c'est pas grave, en fait, cette dernière semaine. Le truc qui était un petit peu plus problématique en revanche, c'était que on n'a pas très bien mangé, enfin, particulièrement bien mangé. C'était très bon ce qu'on a mangé, mais en termes de d'avoir protéines, etc., et de manger clean, c'était pas forcément le meilleur truc. Alors Guillaume, si tu écoutes cet épisode, c'était excellent les plats, mais c'était pas des plats de prépa de prépa de course, parce que Guillaume c'est notre cuistot à chaque fois là-bas. En fait, c'est à partir du moment où il cuisine un truc souvent le premier jour, plus personne ose prendre les fourneaux. Alors non pas qu'ils en aient eu envie. Mais ça, disons que ça rajoute une friction. Et voilà, bon, mais qui cuisine trop bien, ça fait chier. Mais c'est excellent. Donc, pas une excellente semaine, surtout avec le sommeil, franchement, quand tu dors pas chez toi, ou alors que tu dors à côté de Paul Maire parce que tu partages un lit avec lui et qu'il ronfle. C'est pas vrai, je taquine un petit peu, il a pas ronflé très longtemps. C'est pas forcément idéal pour faire les 8 heures de sommeil. J'étais content quand même de rentrer le jeudi pour me faire deux bonnes nuits, ce qui fait que je suis arrivé dans des dispositions assez moyennes à la course. J'avais un peu peur. Le run d'activation de la veille, c'était pas hyper bien passé. J'avais les jambes un peu lourdes, mais je savais que c'était pas forcément hyper problématique pour le fait de faire une performance, parce que j'avais quand même couru le semi avec une cheville en très mauvais état. Donc, j'étais confiant. J'étais très content qu'on soit une grosse équipe à participer à cette course. Alors, il y avait ma sœur, il y avait plein de membres de l'équipe Koudak. On était une dizaine au total. Allez voir la photo sur LinkedIn si vous voulez. On était une jolie équipe. Et c'était super agréable parce que ça a vraiment fait un moment de rassemblement avec chacun qui avait ses petits objectifs. Et au total, il y a eu 9 records personnels qui ont été atteints, qui ont été battus, dont le mien. Donc je suis très content d'annoncer, j'ai fait 42 minutes 24. Mon objectif, c'était de faire 42,50, donc de tenir l'allure 4,17. J'ai tenu 4,14. Cette course n'a pas été du tout facile. Comme j'avais anticipé, je suis parti trop vite, beaucoup trop vite. Je l'ai payé à la fin de la course, notamment dans les jambes. Alors, c'est assez surprenant parce que je pensais qu'avec mes entraînements à la salle, je n'aurais pas un petit peu d'échec musculaire ou de douleur. Et il se trouve qu'à la fin, j'en ai quand même eu. Les jambes décollaient plus trop. Et je pense que c'est parce que je suis parti vite et aussi parce que j'ai fait moins assidûment les jambes à la salle, je vais être honnête, voilà, j'ai pas été irréprochable sur cette partie-là, même en 4 séances par semaine. C'est une course qui est pas si facile que ça, là, ce 10 km, là, parce que c'est un peu vallonné, c'est-à-dire que ça descend et ça monte. Si vous courez pas, vous dites certainement que ça revient en même. En fait, pas du tout. Ça tape un peu les jambes, et c'est beaucoup moins pratique que ce qu'on appelle un 10K roulant, c'est-à-dire un 10K tout plat, celui où tu peux vraiment aller taper des perfs. Donc il faisait froid, mais ça allait, j'étais trop content. C'est très ému d'avoir atteint ce truc-là parce que c'est vraiment super. Enfin, les victoires qui viennent après un gros travail sont trop bien. Ça amplifie. Et en plus, quand elles sont partagées, c'est vraiment le top. Donc, c'était super. Je suis très content d'avoir pu partager ça ici. Il y a une petite vidéo qui va sortir et que j'en profiterai en même temps que la documentation de cette course pour vous annoncer. Enfin, annoncer au grand public, vous savez, hein, vous êtes mes chouchous. Pour annoncer la préparation marathon qui s'ouvre dès aujourd'hui. Aujourd'hui est officiellement le premier jour de la seconde partie de la prépa, parce que j'ai déjà fait 8 semaines qui, en fait, font partie de cette prépa marathon. C'est comme si j'avais travaillé la vitesse pour le 10 km. Là, va falloir faire les grandes sorties longues à base de 2 heures, 2 heures et demie. Donc, va falloir se motiver et rentrer dedans tranquillement. D'autant plus que je sais que souvent, je suis pas très assidu sur le début des prépas. J'ai un peu de mal à me mettre dedans. C'est le début à la fin, souvent. Je fais pas une très bonne semaine pré-course. Les 2 dernières semaines pré-course, souvent, je suis pas très bon. Et les premières non plus. Voilà, donc là, on va essayer de contrecarrer ça et s'engager pleinement dans cette prépa marathon. J'ai trop hâte de pouvoir essayer de relever ce défi. Mon objectif est annoncé, il est simple, c'est courir moins de 3h30. On va faire comme les autres prépas. On verra selon les performances si je le revois à la baisse ou à la hausse. J'aimerais vraiment pas, parce qu'il y a quand même une barre symbolique de 3h30 que j'ai envie de battre. Mais il va falloir s'entraîner. Voilà. Donc, c'est fermé, pour le pour la partie running. Franchement, je me dis, si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez jamais couru un seul kilomètre de votre vie, ça doit vraiment être un petit moment de solitude, où vous faites plus 15, plus 15, plus 15 à chaque fois que j'en parle, parce que je ne parle qu'aux runners ou alors aux sportifs dans ce truc-là. Mais bon, bah, tant pis pour vous, j'aime bien ça. Et c'est mon podcast, je vous emmerde. Donc, à venir. Qu'est-ce qui va sortir cette semaine? Alors, en termes de contenu, je ne saurais pas vous dire « Oh putain, mon micro qui est encore en train de tomber. » Bon, bah, je suis désolé, je dois faire une petite pause pour… Oh là 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 là! Non! Bon, bah, je crois qu'il va falloir que je change de pied, hein, parce que… Ah merde, c'est dans l'autre sens. Je tourne dans le mauvais sens. Bon, je sais pas si je pourrais pas vous faire une pause, hein, parce qu'il n'y a pas de montage. Putain, c'est infernal, ce truc-là. Ah, voilà, on est en train de… Comment ça bien faire, ce truc, hein. Hop, 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 hop. On resserre. Système débrouille. Route to 10 million. D'ailleurs, vous savez que sur le dernier épisode là, du podcast, on a réatteint… Je crois que j'étais 6e. Catégorie entrepreneuriat, ça faisait plaisir. On avait un peu quitté ce top 10. On y est revenu en bombe. Putain, j'ai pas réussi à le remettre, je crois. Bon, vous savez quoi? Bon, là, ça tient. Je vais essayer de parler comme ça. Ouais, donc on a été dans le top 10. Top 10 catégorie entrepreneuriat. On a été 6e, et je crois même un peu plus que ça, d'ailleurs. Il me semble qu'on a pas été… Je crois qu'on a été 4e, d'ailleurs, au pied du podium. Parce que vous avez donné un tonnerre d'applaudissements pour ce dernier épisode, ça m'a fait extrêmement plaisir. Donc ça fait extrêmement… Voilà. Je pensais à ça parce que je me disais que je suis vraiment le seul podcast du top 10 qui remet son micro en direct. Et là, si vous voyez ce que je vois sous les yeux, vous verrez le truc qui est en train de s'affaisser progressivement. Mais je pense que j'ai bien 5 bonnes minutes. C'est ce qu'on appelle un PPPT. Problème pour plus tard. Ça, c'est une notion qui a été popularisée chez Kodak et dans la culture de boîte. C'est quand il y a un truc qui est pas assez important et qu'on voit que ça peut être un problème, mais qu'on a d'autres trucs à gérer, on fait PPPT, ouais, allez. Et spoiler, ça se passe toujours bien. Donc, à venir, je vous disais, les contenus qui vont sortir cette semaine. Donc, demain, gros documentaire sur Asphalt qui sort, il devait sortir la semaine dernière, je sais, ne me le rappelez pas. Et Road to 10 Million, si je dis pas de bêtises, ça sort aussi cette semaine. Donc, on a un nouveau format, plus long, 30 minutes, avec des interventions extérieures, notamment celle de Paul, encore une fois. Donc ça va être super, une bonne semaine de contenu, et en plus bon, une bonne semaine de déplacement. Donc c'est compliqué que ce soit la première semaine du marathon qui se passe avec autant de trucs qui sortent de l'ordinaire. Le premier d'entre eux est que je me barre en Lituanie mercredi, je vais à Vilnius pour tourner un documentaire sur NordVPN, on est invité. Ils nous ont fait un petit séjour d'ailleurs, Cyril, si tu écoutes ce podcast dont je doute, bah écoute, je t'embrasse et tu nous as préparé un super programme. Donc on va passer 2 jours là-bas, vous tourner une bonne vidéo qui sortira en mode docu sur le modèle de la vidéo qui va sortir demain là sur Asphalt, donc mardi 23 janvier, si vous écoutez en différé. Et en plus derrière, qu'est-ce que je vais faire? Donc je rentre de Vilnius le vendredi matin, le vendredi après-midi, je vais à Séville. Séville, on va courir le semi-marathon, c'était un peu mon dream, ça c'est de voyager pour aller courir des semis, pour aller faire des courses, enfin des semis, des courses, hein. Donc je suis très content. Je suis très très content de pouvoir y aller. En plus, on y va avec des potes. Donc c'est super bien. Je prends le week-end off. Enfin, j'allais dire, je prends le week-end off. Oui, c'est un week-end. mais ça, on va faire un peu de télétravail lundi mardi. Juste dans une ville différente. J'adore ça. Il y a une belle température. Donc moi, franchement, j'ai une super semaine qui s'ouvre, qui sera certainement un peu génératrice de fatigue. Et donc mon objectif, c'est de réussir à tenir un petit peu ces séances de sport. Je m'engage ici à courir mes quatre sessions. Ouais. Donc, il y en a au moins une dimanche, ce sera un semi-marathon. Je sais pas à quelle allure je vais le courir, je pense pas que je vais le courir pour la perf. Mais voilà, donc bref, faut faire 4. Ça me stresse ce pied là qui est en train de se péter la gueule, je crois que je vais décrocher le micro et je vais vous prendre à l'ancienne. Putain, ça va se décrocher. Hein. Et je vais vous prendre à l'ancienne, c'est-à-dire qu'à l'ancienne, en fait, j'avais pas de pied. Alors là, bon, ça va faire gling-gling, désolé. Donc là, je vais tourner le micro.
Hop là. Donc à l'ancienne, je vous disais, j'avais le micro dans la main, c'est pour ça que parfois ça croustillait un petit peu. Bon bah là, ce sera un épisode comme ça, parce que mon organisation est dans la galère. Donc, point sur les chiffres. Donc on en est où sur les chiffres? On commence par les notes. Je vous rappelle que si vous mettez une belle note et que vous me l'envoyez derrière sur Instagram en capture d'écran, si c'est sur Spotify et sinon sur Apple Podcast, vous êtes inscrit d'office, vous pouvez gagner une place pour Enlève tes chaussures. On va reprendre le tournage à partir du mois de février. Je vais commencer à rechuter des nouvelles invites. Et je vous sélectionnerai pour venir y assister. Et je ferai gagner aussi une autre chose, c'est une place pour le Discord pour le trimestre prochain. À condition d'être un scaler toujours. Hein, parce que sinon ça ne marche pas vraiment. Le Discord marche sur le fait d'avoir des gros objectifs et de s'y tenir. Donc et malgré tout, même si vous gagnez, il faudra que vous soyez dans la culture. Sinon, ça va dégrader la qualité pour les autres membres. Donc, on est à 579 notes sur Spotify. On se rapproche gentiment des 1000. Et 204 sur Apple Podcast. On a passé les 200, c'est super. Au niveau des écoutes, je vous le disais, donc 117 000 écoutes, semaine record. C'est un plaisir. Voilà les potes pour la partie actu chiffres. Une vingtaine de minutes. Ça me semble honnête, franchement. C'est le prix à payer pour entendre votre rubrique préférée. Ce sont les pendules à l'heure. Donc, rappel pour les retrouver, le lien de la newsletter est dans la description de l'épisode. Et vous pourrez retrouver aussi les récaps des épisodes précédents. Voilà, quand j'ai commencé à le faire, il y a 3 ou 4 épisodes. Donc, j'en ai une dizaine à vous partager cette semaine. C'est beaucoup de citations. Alors, il va y avoir un peu de quoi. Je vous fais un petit teasing pour que vous restiez jusqu'au bout. La première citation, c'est « On ne se pose qu'en s'opposant », c'est la première pendule. Puis après, on va parler un petit peu de divertissement. On va apprendre à tricher et on va se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire devenir un adulte. Voilà, donc parmi ces trucs. Ok, superbe. Alors, la première, c'est une citation d'Hegel qui dit « On ne se pose qu'en s'opposant ». Et je voulais vous en dire quelques mots parce que vous savez que j'aime beaucoup, je me pose beaucoup de questions, vous avez remarqué, sur qu'est-ce que ça veut dire d'innover, comment est-ce qu'on progresse, comment est-ce qu'on crée quelque chose, quels sont en fait les déterminants de l'attraction du démarrage d'un business. Ce que je vous le disais, c'est très différent la traction du démarrage de l'accélération d'une traction. C'est deux phases très différentes. Donc, Hegel, j'imagine, qui dit ça. Alors, je ne suis pas allé mater l'origine de la citation en détail. Je crois que je l'ai entendu dans un podcast. Il dit ça parce que c'est un peu la façon dont la science progresse et de manière générale, la connaissance. C'est-à-dire qu'il y a un théorème et un jour, il y a un mec avec un gros cerveau et des cheveux blancs qui vient dire « je crois que ça, c'est pas vrai ». Et qui va embaucher une équipe de spécialistes, qui va se faire financer par un mécène avec des vues politiques. et ensuite, il va pouvoir démontrer ou pas le théorème. Et donc, il va faire progresser la connaissance. Il va dire, tiens, j'ai trouvé un nouveau théorème. C'est intéressant parce qu'on voit que la nouvelle connaissance qui est produite ne peut pas exister sans la précédente. Et donc, je pense que c'est en ce sens-là qu'il écrit « On ne se pose qu'en s'opposant ». Du moins, c'est un des sens de cette citation. Et donc, il y a un parallèle qui est évident avec l'entrepreneuriat. Je vous en ai déjà parlé. Et je ne compte plus le nombre d'entrepreneurs qui se sont construits en bagarre contre quelque chose. Et plus particulièrement, bon, moi vraiment, je constate un phénomène énorme d'entrepreneurs qui se sont lancés après s'être fait larguer / tromper par leur meuf. C'est un moteur qui est super puissant. Mais je pense vraiment, les meufs infidèles, c'est les meilleurs VC de France. Hein. Elles ont lancé des vocations et ça te coûte zéro, elles te prennent pas de part. Hein. Juste elle te trompe, elle te donne l'énergie du désespoir, après tu montes une boîte, ta vie elle est changée. Donc remerciez-les pour tous les entrepreneurs de ce pays. Je parle pour les mecs évidemment. Je pense que ça doit marcher pareil dans l'autre sens, hein. Une grosse frustration, ça marche très bien. Et voilà, et donc et en fait souvent tu vas te construire en opposition contre quelque chose. Et bon, alors pourquoi est-ce que je vous ai sélectionné cette citation? C'est pas juste pour vous dire des trucs comme ça que j'ai déjà partagé dans d'autres pendules certainement. C'est parce que c'est aussi une très bonne façon de découvrir qui vous êtes. Alors, la question « qui suis-je » est très dure et elle est très importante. Évidemment, la première chose, elle est très importante pour choisir la voie entrepreneuriale dans laquelle tu vas te lancer, puisque je suis très fan de la notion de « founder market fit » que je n'ai pas du tout inventée et qui est très populaire. C'est pour ça que j'en parle pas beaucoup, parce que c'est de la connaissance maintenant qui est bien connue. Je ne suis pas là pour vous livrer des banalités. Donc, évidemment, c'est important de savoir qui t'es avant de savoir dans quoi tu te lances. Ou alors, pendant, souvent, tu le découvres. Mais ça, c'est assez dur comme question. Trouver une réponse à qui suis-je. Ça pose plein de questions philosophiques un peu compliquées qu'on n'a pas envie de se poser, en tout cas, certainement pas un lundi 22 janvier à 23h. Et à la place, une question qui est beaucoup plus facile, c'est qu'est-ce que je ne suis pas? Et c'est là où c'est intéressant de réussir à se poser en s'opposant. Et donc finalement, tu vas découvrir non pas ton identité, mais au moins ce que ton identité n'est pas et ce qui va donner en fait des informations sur un peu plus, enfin tu vas connaître un peu plus de choses, pardon, sur qui tu es, déjà en pouvant exclure des trucs. C'est assez intéressant de, par exemple, quand vous voulez vous lancer sur YouTube, de vous dire, bon, bah écoute, je sais pas exactement ce que doit être ma ligne éditoriale, par contre, je sais que je ne veux pas que mon contenu ressemble à X, Y ou Z. Moi, par exemple, il y avait un truc que je m'étais dit au début, je ne veux pas que mon contenu business soit Ferrari, je suis très riche, faites comme moi. Ça m'intéresse pas. Je sais ce que j'ai pas envie de faire. Et alors, c'est pas pour autant que j'ai trouvé ma ligne édito, hein, je la cherche encore. mais ça m'a permis au moins de me positionner. Et ça, c'est un truc auquel, en fait, qui peut même parfois devenir en soi une ligne éditoriale. Si vous voulez vraiment rentrer dans le cliché, il y a des chaînes entières sur YouTube qui se sont construites sur l'opposition ou la critique de quelque chose. Alors, je ne recommande pas forcément de le faire, ça va être un peu la conclusion de la pendule qui va venir juste après. Mais c'est un très bon point de départ pour savoir un peu qui vous êtes. Je parle beaucoup de YouTube, hein, d'ailleurs. Je me rends compte souvent, je fais quasiment un égal entre entrepreneuriat et YouTube, mais je trouve que c'est assez parlant parce que, en fait, le fait de produire du contenu sur Internet, ça réplique un peu toutes les étapes d'un business, finalement. Où, vous voyez tout le framework AR, là. Alors, je vais essayer de le dire d'une traite. Donc, acquisition, activation, rétention, revenue, referral, ou referral revenue. Je crois que ça change un peu. Mais en fait, tout est très bien schématisé de façon simple sur YouTube. Donc, sur l'acquisition des vues, le fait de monétiser un business derrière. Et moi, ce que j'aime beaucoup avec YouTube, c'est que ça accélère la réponse du marché. Quand tu produis un truc qui est intéressant, les gens le consomment, c'est très facile d'en déduire un business derrière. Et quand ça marche pas, bon, bah, y a pas d'ambiguïté, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça que je fais des assimilations. Et surtout, vous pouvez mieux le comprendre, je pense, que vous parlez de trucs un peu bizarres et très spécifiques à des business en particulier. Donc, je trouve que cette façon de raisonner, donc de se poser en s'opposant, est très utile à une seule condition, c'est que vous ne vous définissiez pas par l'opposition avec le truc que vous avez choisi. Je déteste ça. Moi, franchement, ça fait partie des catégories de personnes que je ne peux pas fréquenter. C'est les, entre guillemets, les révolutionnaires. Donc, les gens qui définissent une grosse partie de leur identité comme étant contre quelque chose. Alors, on a tous le droit d'être contre quelque chose, mais il n'y en a qu'une très petite partie qui vont en faire une partie très importante de leur identité. C'est-à-dire que tu vas leur demander qui tu es. Bon, bah, salut, mon métier, c'est ça. Et je suis contre ça. Il y a des gens, en fait, dont les actions reflètent le fait qu'ils se définissent énormément par une bagarre contre quelque chose. Alors, je ne vais pas rentrer plus spécifiquement dans ce sujet-là, parce que le but de ce podcast, c'est absolument pas de partir dans mes opinions politiques ou whatever, hein, si tant est que j'en ai, parce que ce n'est pas un sujet qui me passionne pas particulièrement. Mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Parce que déjà, bon, bah, moi, la raison pour laquelle j'aime pas trop les gens comme ça, c'est aussi parce que je vois que ça les rend très malheureux, et que bon, c'est une croyance qui peut-être est vraie, mais qui n'est pas très utile, je trouve, qui ne sert pas la fin que moi j'ai envie de servir. Mais en fait, le truc qui est un peu ridicule avec ce genre de choses-là, c'est que malheureusement, en voulant se définir contre quelque chose, ils ont décidé qu'ils ne vivraient que tant que l'opposition serait vivante. Quand l'opposition disparaît, l'identité disparaît aussi. Et donc vous voyez des phénomènes assez comiques, de personnes qui ont été opposées à un truc, donc ce fameux truc auquel ils étaient opposés disparaît, et ils savent plus qui ils sont, donc ils s'opposent à une nouvelle chose. Ça, c'est classique. Donc, la leçon que je voulais vous dire de cette citation, c'est « on ne s'oppose qu'en s'opposant », c'est que je trouve que la démarche d'essayer de détruire quelque chose, une croyance ou s'opposer à quelque chose, pour moi, c'est la voie de la connaissance de soi, je pense. Et en fait, même si jamais le résultat de cette réflexion, c'est que vous finissez par être d'accord avec le truc auquel vous cherchiez à vous opposer. Je prends un exemple un peu plus concret. Moi, HEC a eu typiquement ce rôle-là. J'ai essayé par mon et par vos de m'opposer. J'étais le pire révolutionnaire avec HEC. Donc, je me définissais par le fait que j'étais un HEC un peu déçu pendant quelques années. J'ai essayé, voilà, j'étais en gros conflit avec eux. Et j'ai épuisé en fait toutes les critiques que j'avais à leur faire, et ça m'a permis de découvrir ce que vraiment m'avait apporté HEC. Donc je pensais que j'avais signé pour une entreprise qui voulait m'enfermer dans une voie M&A, etc. et tout, et en fait j'ai découvert que j'avais pu me construire contre un monolithe, exactement comme un adolescent se construit envers un parent, donc en opposition. Et finalement HEC avait très bien rempli son rôle, il m'avait donné en plus des assets dont je suis très content. La marque HEC, je vous ai déjà tout expliqué dans mes vidéos, notamment dans l'épisode hors série sur HEC. Le tampon, le réseau et l'exposition à l'ambition, qui sont principalement les trois choses. Voilà, donc posez-vous en vos opposants et ensuite libérez-vous de l'opposition. Bam ! Ce sera résumé comme ça dans la newsletter. Numéro 2. Alors, c'est celle qui a donné le titre au podcast, si je ne l'ai pas changé d'ici là. C'est apprendre à faire le bien, même si ça ne fait pas du bien. Alors, par où démarrer sur celle-là ? Bon, alors déjà, commençons par dire que je ne prétends pas être quelqu'un qui fait le bien. C'est assez dur comme posture à tenir et c'est trop facilement critiquable. Donc, idéalement, il aurait fallu remplacer bien par juste. C'est plutôt ça. Mais ça rendait la citation un peu moins stylée. Faire le juste, même si ça fait... même si c'est pas juste, non. Ça niquait le sens. Donc, c'était beaucoup plus stylé avec ma punchline et le mot bien. Donc, ça revenait à une petite observation. Parce que vous savez que les pendules à l'heure, c'est toujours de l'empirisme. Hein. C'est jamais des démonstrations théoriques ou philosophiques. C'est juste des constats du réel que j'ai vu être très récurrents et qui, je pense, ont vocation à être vocalisés et partagés. Après, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce qui drive le plus ma confiance en moi, c'est très simple, c'est le fait de faire les bons choix. C'est toujours ça. Que ce soit dans le sport, donc aller m'entraîner quand j'ai dit que j'allais m'entraîner, dans la bouffe, manger bien pour Koudak, donc prendre des décisions stratégiques que j'estime être juste, bien qu'elle soit dure. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que la plupart du temps, quand tu prends une décision que tu sais par la suite que c'était la bonne décision, tu le découvres derrière. Donc par exemple, quand t'as pas trop envie de t'entraîner un matin, que tu y vas quand même, et que le lendemain, tu t'es trop content d'être entraîné, ou alors juste en rentrant, parfois t'as simplement ce moment, ce feedback est quasiment direct. Et bien en fait, ce genre de décision-là, la plupart du temps, ça fait pas bien du tout quand tu le fais. Exemple tout con, moi une des décisions les plus clés de ma vie, ça a été de quitter mon stage en Australie. C'est une décision qui m'a fait très 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 mal quand je l'ai prise. En termes de remise en question, en termes de j'étais perdu, c'était pas très agréable aussi la discussion que tu as avec ton maître de stage quand tu quittes. Bref, c'était énormément de souffrance qui fait que si malheureusement j'avais choisi de juger la qualité de ma décision selon le résultat immédiat qu'elle avait produit sur moi, que savoir un peu de désespoir, eh bien j'aurais pu être tenté de ne pas prendre cette décision et de revenir en arrière en me disant « Bon, je vais prendre la solution safe, ça va me faire beaucoup plus de bien et ça va être très cool. » Donc souvent, en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a énormément de bonnes décisions qui vont vous faire beaucoup de mal sur le court terme. Alors il ne faut pas pousser le théorème trop loin et pas se dire que c'est parce que ça fait mal que c'est bien, c'est pas un prétexte pour être un fils de pute, mais ce que je veux simplement dire, c'est qu'il ne faut pas utiliser le sentiment immédiat que tu as sur une décision pour juger de sa justesse. Donc souvent, en fait, ça va impliquer de prendre une bonne décision. La raison pour laquelle les autres personnes ne la prennent pas, c'est justement parce qu'elle est difficile à prendre et parce qu'elle va faire du mal sur le court terme. Quand tu décides d'aller courir, quand ton réveil sonne à 6h du matin et que tu décides d'aller courir et qu'il fait moins 4 degrés, ça fait mal, t'as mal aux yeux, il fait froid, c'est pas un moment qui est agréable. Et si j'utilisais ce feedback-là pour me dire est-ce que je suis en train de faire le bon truc, eh bien, je prendrais beaucoup de mauvaises décisions. Donc, tout ça pour dire que si jamais vous ressentez de la résistance, de la douleur dans une action, c'est probablement assez normal. Ça veut pas dire que vous êtes en train de faire la bonne chose, mais ça veut certainement pas dire que vous êtes en train de faire la mauvaise chose. Et c'est surtout ça que je veux dire. Et donc, là-dessus, ce qui manque souvent aux gens, c'est de faire preuve de courage. Alors merde, mon micro a un peu pété. Hop là. C'est de faire preuve de courage. Sur le courage, en fait, il y a un truc important à saisir et que je pense de plus en plus, c'est que j'ai vraiment l'impression que c'est un peu la chef des qualités ou des valeurs. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que j'ai l'impression que le courage, ça débloque toutes les autres valeurs. Par exemple, il n'y a pas de justice sans courage. Si t'as pas les couilles d'ouvrir ta gueule quand tu vois une injustice, en fait, la notion de justice n'est pas possible. Il n'y a pas de loyauté sans courage, vous en avez déjà parlé. Quand quelqu'un vous trahit, c'est pas forcément qu'il n'est pas loyal, c'est juste qu'il est lâche, peut-être. Quand tu dois défendre un ami, si t'es pas courageux, t'es pas loyal. Il n'y a pas de victoire sans courage non plus. Il faut avoir le courage d'accepter la possibilité de perdre pour être prêt à gagner. Donc il faut s'inscrire à la compète. Et quand tu t'inscris à la compète, bon, bah, tu as une chance de gagner, mais aussi une chance de perdre. Et donc je voulais vous dire ce truc-là. Apprenez à faire le bien, même si ça ne fait pas du bien. Et tout ça pour vous dire qu'une bonne décision, souvent ça fait un peu peur, et puis ça fait un peu mal. Et c'est souvent à ça qu'on les reconnaît. Voilà. Donc c'était une petite observation que j'aimais bien et qui vient certainement du fait, vous vous en doutez, que j'ai dû prendre quelques décisions un peu difficiles ces derniers jours. Voilà. Pendule numéro 3. Divertir, c'est se faire détourner de sa cible. Alors ça, je l'ai entendu dans un podcast. Je crois que ça vient de l'étymologie. Il y a plusieurs implications. Donc je la répète, c'est divertir, c'est se divertir, c'est se faire détourner de sa cible. Il y a plusieurs trucs que je trouvais stylés dans cette phrase. La première chose, c'est que la première problématique, c'est que la plupart des gens n'ont pas de cible. Donc, en fait, si tu n'as pas de cible, tout n'est que divertissement. Parce qu'en fait, par définition, tout est détourné, parce que tu ne vas pas vers la cible. Donc, je reviens sur une idée que j'avais déjà partagée, qui est que le chemin n'a pas de sens sans l'objectif. Là, c'est la même chose. Si tu n'as pas de cible, en fait, malheureusement, tout ce que tu fais n'est jamais rien de plus que de l'entertainment. Donc, si j'avais terminé, par exemple, mon 10K et que je n'avais pas fixé d'objectif, la satisfaction aurait été beaucoup moins grande parce que j'aurais pas pu juger en fait la réussite ou pas de mon truc. Si j'avais pas assumé que c'était ma cible, ça aurait pu être du cul, quoi. et moi d'ailleurs, je veux dire, c'est aussi une catégorie de personnes qui, alors ça pour le coup, c'est pas vraiment des gens que je peux pas fréquenter, c'est des gens qui me dégoûtent vraiment, donc du dégoût profond. C'est ceux qui ont renoncé. Vous en avez peut-être dans vos entourages. C'est ceux qui ont renoncé au fait d'avoir une cible et en fait dont la vie n'est simplement qu'une succession de divertissements. Donc ils passent leur temps soit à se mettre des tôles en boîte, soit à se mettre des murs tout le temps, et en fait qui ne construisent rien, qui n'ont pas de cible, qui n'ont pas d'objectif. Et alors je parle vraiment des gens qui ont un objectif et qui se donnent les moyens de l'atteindre, hein, parce qu'il y a aussi plein de gens qui disent qu'ils ont un objectif, mais qui bougent pas d'un pet. Ça c'est encore plus dégoûtant d'ailleurs, je trouve. Enfin je dis dégoûtant, mais c'est en fait moi ça me rend triste ces trucs-là, donc j'ai vraiment pas envie de traîner autour de gens comme ça. Parce que c'est contagieux. Hein. Les gens qui ont renoncé souvent, c'est si dur pour eux de voir quelqu'un qui n'a pas renoncé, que bah faut qu'il y ait une frame qui gagne. Donc c'est soit que toi qui gagne et qui les fait se bouger le cul, soit c'est eux qui gagnent et qui te font renoncer toi. Donc c'est pour ça que souvent ça matche pas très longtemps. Et aussi c'est pour cette raison que les amitiés se brisent, les amitiés de longue date sur ce genre de valeurs là, souvent s'effritent. Donc ça c'est la première chose. Sensible, tout est divertissement. Ensuite, il y a beaucoup de personnes qui tirent sur une cible qui est à côté de la vraie cible. Donc c'est pour ça quand je l'écris. Je pense beaucoup au M&A, au conseil en stratégie, à la voie qu'on nous recommande en école de commerce. Donc ça, c'est l'équivalent de... Tu vois, t'as plein de gens avec plein d'ambitions qui arrivent en école de commerce en se disant « Bon, bah, j'ai envie de faire une start-up. J'ai envie de changer le monde et de travailler dans l'écologie. » Et puis ensuite, il y a HEC qui arrive et donc ça, c'est l'équivalent de la cible, hein, ce premier truc. Donc ils sont au tir. Tu vois, ils ont leur arc dans la main. Ils disent ils vont tirer sur la cible. Ils ont bandé l'arc. Et là, il y a l'administration qui arrive et qui fait « Attends, regarde, j'ai une autre cible. » Et donc je vais la poser là, juste à côté. Et en fait, il y a 10 archers à côté de toi qui vont tirer dedans. Et toi, tu vas être dedans et tu vas te dire « Attends, mais c'est laquelle la bonne cible ?» Et comme t'es un gros lâche sans courage, tu vas tirer sur la cible sur laquelle tout le monde tire. Et tu vas oublier qu'en fait, la vraie cible, elle est à côté. Donc ça, c'est aussi... C'est pour ça que je vous disais que le manque de courage, franchement, c'est un truc... Ça paraît drôle hein, sur le papier, mais vous avez, il n'y a pas vraiment d'autre choix. Et je parle pas, je me considère pas comme quelqu'un de particulièrement courageux, mais en tout cas, je me considère, ça c'est sûr, comme quelqu'un qui travaille son courage. C'est pour ça que je fais du running aussi. C'est pour ça que je vais poursuivre ces défis sportifs. C'est pour développer alors, je ne sais pas si c'est synonyme de bravoure, le courage, mais devenir brave, pouvoir braver des épreuves. Et ça me plaît. Et en fait, voilà, vous vous rendez compte que ne pas faire preuve de courage, souvent, c'est faire preuve de lâcheté plutôt. Les gens, ils passent à côté de leur vie parce qu'ils sont lâches. Et c'est grave, hein. C'est grave de ouf. Parce que je dis ça comme ça, mais... chaque journée qui se passe ne se reproduira plus jamais dans votre vie. Hein. Vous êtes juste un jour plus vieux. Moi, c'est un truc. Une fois que tu as passé ce cap-là de réaliser que le temps est en quantité limitée, tu peux plus. En fait, tu ne peux pas accepter la lâcheté. C'est pas possible. Tu peux pas l'accepter. Tu peux en souffrir et te rendre compte que tu as du mal à être aussi courageux que tu aimerais l'être, mais tu ne peux pas l'accepter. Donc, tirer sur la vraie cible. Ça, c'est la seconde chose. Et la troisième chose, évidemment, c'est quand vous avez une cible. Ayez le courage de ne pas vous laisser divertir. Donc là, très simple, vous regardez votre semaine passée, vous savez où vous voulez aller, vous avez votre objectif, et vous demandez quelle part de vos heures de la semaine dernière ont été investies
pour votre objectif principal. Et en fait, selon dans quelle tranche vous vous situez, 20%, 40%, 60%, 80%, 100%, eh bien, bon, bah, non seulement la trajectoire de votre vie est radicalement différente, mais ensuite vous passez d'amateur à professionnel. Quelqu'un qui fait 20% de son temps sur un objectif qu'il aime bien, bon, bah, c'est un amateur. C'est le mec qui joue 3 fois au tennis dans la semaine, quoi. Et quelqu'un qui passe 80% de son temps dessus, donc qui s'entraîne, qui va chez le kiné, qui fait de la prépa physique, etc., bon, bah, ça devient un professionnel. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, première chose, si vous voulez devenir un professionnel dans ce que vous faites, bah, réajustez vos priorités. Et ne vous laissez pas divertir. Et c'est pour ça que je pense que j'attribue une grande partie du fait que Kodak est grossi comme ça à précisément ce point-là, au fait de ne pas m'être laissé divertir dans ma quête de me scaler moi-même. Je suis convaincu que je ne suis pas plus intelligent que la plupart des gens, mais juste j'ai full optimisé mon environnement toujours. Donc, vous savez, j'ai commencé mon aventure entrepreneuriale, j'étais en coloc avec un mec qui voulait se donner aussi, c'était David. Aujourd'hui, là, j'habite dans un appart où la salle, elle est à 5 minutes à pied. Donc, ça me permet d'aller m'entraîner quand je veux. Et le bois de Boulogne, même chose, 5 minutes en courant. Et j'ai pas de temps de transport, je travaille de chez moi. Ma famille est pas loin, ça me permet de garder des liens avec eux. J'ai vraiment optimisé mon environnement pour que je ne me fasse pas divertir. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut bannir le divertissement, mais c'est très important de savoir différencier l'un et l'autre. Parce que le problème des gens qui passent leur temps à se divertir, c'est qu'ils ne divertissent pas. En fait, ils ne différencient pas l'un et l'autre. Pour eux, c'est confondu. Et en fait, quand tu fais trop de divertissement, finalement, voilà, on va un peu rentrer dans l'enculade de mouche philosophique, mais bah, le divertissement devient la cible. C'est ça, finalement, ta cible, c'est quoi? Ta cible, c'est le truc sur lequel tu passes le plus de temps possible. Bon, bah, écoute, si tu mates Netflix 3 heures par soir et que c'est ta principale activité, bon, bah, écoute, tu fais 3 x 7, 21. Bon, ça devient l'une des activités les plus prioritaires de ta vie. Donc, tout ce qui est à côté est du divertissement. Donc, ton corps, il va très bien le comprendre, ça. Et donc, le conseil, c'est simplement de ne pas vous tromper. Choisissez votre cible, acceptez-la. Et moi, j'aime bien avoir une cible qui me fait progresser et qui est un peu ambitieuse. Mais je sais que ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Donc, voilà, ne vous laissez pas divertir. Putain, le micro est dans la sauce. OK, on passe à la pendule numéro 4. Apprendre à tricher. Donc, Ça vient d'un podcast que j'écoutais qui s'appelle Les Bâtisseurs, que je vous recommande. Franchement, top 3 découvertes, j'allais dire, de l'année, mais on est le 22 janvier, donc ça ne marche pas du tout. Mais vraiment, j'ai tout bouffé. Et dans lequel il y a un invité, je ne me souviens même plus qui c'est. Peut-être que c'est Comte Sponville. Comte Sponville, un philosophe. Dans lequel il dit que Ulysse est un tricheur. Alors vous savez, parfois moi j'écoute des podcasts, j'ai ni l'avant ni l'après, mais j'entends une phrase qui m'inspire, je sais même pas si c'est de ça dont parlait l'auteur, mais je trouvais la phrase stylée. Il dit que Ulysse est un tricheur parce qu'en fait la majorité des choses là de l'Odyssée, enfin plein de défis, en fait il les a relevés en trichant. Quand il se cache là sous les, je crois que c'est des moutons pour échapper aux cyclopes, c'est de la triche. Quand il y a les sirènes qui veulent le faire sauter là et le noyer et qui s'accroche au mât, bon bah c'est de la triche. et en fait, bon, on peut sembler ça, et pour enfin ce que je veux dire simplement, c'est que ça ne fait pas, c'est pas pourtant que c'est pas un héros. Et ce que je voulais vous dire, et pourquoi est-ce que je voulais vous dire apprendre à tricher, c'est parce que je suis intimement convaincu qu'il n'y a pas de règle du jeu autre que le code éthique qu'on a chacun. Et la seule raison pour laquelle il y a des règles, donc la loi, c'est parce qu'il y a des gens qui n'ont aucun code éthique. C'est-à-dire que t'as des mecs qui sont prêts à genre racketter des grands-mères. C'est quand même, je sais pas si vous vous rendez compte, il y a des gens qui volent le sac à main des grands-mères. Donc les gens, personne le plus faible. C'est comme si je vous disais, j'ai tabassé un handicapé, quoi. Enfin, moi j'entends la même chose quand j'entends ces phrases-là. Et donc c'est pour ça qu'il y a des règles. Mais donc finalement, en fait, si tout le monde avait un code éthique, ce qui n'est pas du tout le cas, ben, il n'y aura pas besoin d'avoir des règles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines règles qui sont mises pour se prémunir contre ce genre de danger public. Donc forcément, il y a certaines règles que toi, si tu fais attention à ton code éthique et que tu le respectes, tu peux te permettre de briser. Et donc briser une règle, pour moi, égale tricher, ou plutôt plier une règle, je vais dire. Donc par exemple, quand tu es à la campagne, qu'il n'y a pas une voiture autour de toi et qu'il y a un feu rouge, et que tu le grilles, tu as triché, mais tu es quand même quelqu'un qui fait attention à la sécurité, c'est juste que tu as vu qu'il n'y avait pas de danger. Et donc là, en fait, tu peux avoir pas mal de catégories de personnes. Pour moi, ça, c'est un des. Je vous parlais de la théorie du signal. Si tu veux connaître quelqu'un, tu regardes plein de trucs, plein de situations dans lesquelles il pense pas qu'il est observé. Ça, c'en est typiquement une. Tu es dans la bagnole avec quelqu'un. Je sais pas qu'il est 4h du mat. Évidemment, vous n'êtes pas bourré. Hein. Vous rentrez juste et il n'y a personne. Est-ce qu'il s'arrête ou est-ce qu'il grille? Et que c'est obvious qu'il n'y a personne. Et bien là, tu as deux catégories de personnes. Et je ne dis pas qu'il y en a une qui a raison l'une sur l'autre. Hein. Je pourrais en faire un sujet. Mais là, tu vois un petit peu qui est capable. Enfin, souvent, l'entrepreneur, il va griller. Voilà. La leçon, c'est que je vous épargne aussi d'ailleurs, hein, tous les cas où le mec qui a fait la règle, souvent, c'est un truand. C'est genre. parce qu'il y a des règles qui sont clairement des truandages, quoi. Des trucs de voyous. Je pense que vous savez, quand le dictateur africain, le premier truc qu'il arrive, qu'il fait quand il arrive au pouvoir, c'est faire voter le fait que ça va être un dictateur à vie. Bon, bah là, il y a en effet une règle qui empêche n'importe qui de se présenter. Est-ce que la règle est juste? Je ne sais pas. Il y avait aussi une histoire que m'avait raconté mon colloque d'HEC. Alors, je ne sais pas si elle est vraie, faudrait que j'aille vérifier. Il m'avait raconté qu'il y avait un perchiste qui s'appelait Sergei Bubka, qui a détenu le record du monde pendant très longtemps, donc avant Renaud Lavillenie, puis. Aujourd'hui, je crois que c'est Mondo Duplantis. Et qu'en fait, quand il est passé, aujourd'hui, il a travaillé à la Fédération, et il a fait raccourcir la taille des comment ça s'appelle? Des boules de fer sur lesquelles repose la barre par-dessus laquelle tu dois sauter. Donc, ça veut simplement dire qu'elle est beaucoup plus sensible au frottement. Donc, elle peut tomber plus facilement, donc les gens peuvent rater leur saut plus facilement. Et donc, en gros, moi, j'imagine que la leçon, c'est pour protéger son record du monde. Bon, ça, typiquement, si c'est avéré, c'est une règle. Il y a quelqu'un qui va venir vous voir faire non, mais c'est la règle, t'as fait tomber la barre. Bon, il y a quand même un fils de pute à la base qui a fait un truc injuste. Donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre, faut avoir la capacité à briser les règles et à les accepter parce que tu les valides et pas juste parce que tu y es contraint. Mais par contre, derrière, ça vient avec une lourde responsabilité qui est celle d'en assumer les conséquences. Donc imagine que tu trouves que les impôts c'est pas juste, que tu décides de pas les payer, bah derrière mon pote, faut pas pleurer quand tu. Mais il y a le fils qui vient toquer chez toi et prendre ta télé. Au cas où vous avez écouté tout ce que je viens de vous dire en pensant aux impôts. Ce dont je doute évidemment, car vous êtes basé en France et pas à Dubaï. Je le vois dans les stats, hein, donc vous pouvez pas mentir. On va passer à la 5 et je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Alors, numéro 5. Encore une fois entendu dans un podcast, mais je n'ai pas noté lequel. L'homme intelligent apprend de ses erreurs, l'homme sage apprend des erreurs des autres. Bon, alors celle-là, elle m'a piqué. Elle m'a fait un petit peu mal au cul. Je vais être honnête, j'ai eu un petit inconfort quand je l'ai entendu. C'est souvent le signe toujours du même phénomène, c'est que ça va un petit peu contre, pas mon système de croyance, mais c'est un peu contre ce que je constate que je suis. Et donc, commençons par expliquer un petit peu ce que ça veut dire. Si tu ne te sers pas des apprentissages des autres, en fait, la connaissance humaine, elle ne scale pas. Vous voyez ce que c'est un intérêt composé ? Je vous ai déjà expliqué, c'est quand, en fait, chaque... Bon alors, comment l'expliquer en une phrase, sans partir dans des démonstrations financières ? Un intérêt composé, ce sont quand... Bon, je vais t'expliquer avec un exemple, ça va être plus simple que ça. Ou alors, certainement, j'espère que. Enfin, vous êtes très instruits si vous écoutez ce podcast, hein, vous savez déjà ce que ça veut dire. Mais c'est en gros, quand si tu gagnes 1% par jour, chaque jour de l'année, et que tu as mis 100 euros au début, eh bien, le second jour, tu vas avoir 101, mais le troisième jour, tu vas avoir 101 plus 1%. Et donc, ça ne fait pas exactement 102, ça fait un petit peu plus. Donc, ça veut dire que les intérêts composent, ça veut dire que tous les intérêts des jours précédents viennent se multiplier les uns les autres. Et donc, ça donne souvent lieu à une courbe qui est exponentielle. Donc en gros, entre le 364e et le 365e jour de l'année, tu vas gagner autant d'argent que, je sais pas, genre les 80 premiers ou les 100 premiers. Parce que les intérêts composent les uns avec les autres. Et donc c'est exactement ça qui se passe avec la connaissance et l'expérience. Si tu n'apprends que de tes erreurs à toi, et ben en fait tu t'assois sur toutes les erreurs des autres d'avant. Et donc l'humain, malheureusement, il ne scalerait pas si c'était ça. Parce que tu ne deviendrais pas 1% meilleur ou je sais pas combien de pourcents meilleur par génération. Donc imaginez, hein, si on devait tous réapprendre à faire du feu, et voilà, qu'on n'est pas oh, Dieu merci, on achète des briquets quoi. Donc en fait, moi je trouvais le point intéressant parce que c'est la raison pour laquelle ça m'a piqué, c'est parce que c'est un défaut, c'est le défaut qui vient avec la qualité qui est de penser par soi-même. Souvent, quand tu penses par toi-même, t'as pas trop envie d'écouter les autres, et donc t'aimes pas, tu sais, quand t'as souvent plus tendance par défaut à t'opposer qu'à dire ah oui putain peut-être que cette personne-là est très sage, il y a quelque chose à m'apprendre. Tu préfères apprendre par tes propres erreurs. Et donc souvent tu vas apprendre plus profondément, mais par contre tu vas refaire des conneries que tu aurais pu éviter. Donc la question qui se pose maintenant, c'est de qui est-ce qu'on doit écouter les conseils si ce n'est pas de soi-même. Parce que bon, la première étape, c'est quand même de savoir l'homme intelligent. Donc soyez intelligent, apprenez de vos erreurs. Déjà, je ne suis pas revenu dessus, mais ça va de soi. Maintenant, comment devenir sage? Moi, je vous conseille d'appliquer 3 critères avant d'écouter les conseils. La première chose, c'est d'apprendre par analogie. Donc ça veut dire qu'il va falloir essayer de vous inspirer de situations qui sont le plus similaires aux vôtres. Et pas forcément dans le domaine dans lequel vous évoluez. Ça peut être des trucs tout cons, hein, je sais rien, tu peux apprendre des trucs. Moi, j'apprends beaucoup de choses du sport. Je sais pas si tout le monde, quand le public voit Zidane qui met un coup de boule à Materazzi, t'en as 99% qui ont le seum et t'en as 1% qui se disent ah putain, mais voici ce que ça peut coûter de succomber à ses émotions. Je vais clairement plus jamais succomber à mes émotions. Et donc là, le mec a pris une leçon sur un truc qui avait rien à voir. Donc ça, c'est la première chose, raisonner par analogie, donc trouver des situations les plus similaires possibles aux vôtres et vraiment pas passer trop vite sur ce sujet-là, parce que ça va être le défaut. Souvent, en fait, un entrepreneur, quand il va te donner un conseil, il va te dire ce qu'il aurait fait à ta place, mais il n'a aucune idée de ce que c'est d'être à ta place. Donc il va se gourer, c'est souvent plus intéressant de le prendre comme un point de donnée que comme une recommandation absolue. Donc c'est la première chose. Seconde chose, c'est les incentives. Donc quand tu écoutes quelqu'un, il faut toujours savoir quel est son intérêt profond. C'est pour ça qu'il faut faire très attention aux bouquins d'entrepreneuriat, parce qu'ils sont souvent écrits pour vendre des bouquins. Donc pour avoir des histoires un peu dramatiques et pas forcément pour coller à la réalité. C'est beaucoup moins stylé de dire que ta boîte elle a marché parce que tu as fait un truc simple pendant 10 ans que d'expliquer que tu as utilisé je sais pas quelle fonctionnalité de ChatGPT pour trouver je sais pas quel framework de mes couilles de growth. Enfin voilà. C'est beaucoup moins sexy. Mais souvent c'est vrai. Donc ne prenez pas de conseils en canapèche par le vendeur de canapèche. C'est aussi la leçon. C'est intéressant quand on vous conseille des trucs, mais malheureusement. Vous savez que chacun des conseils n'a qu'un seul objectif, c'est vous faire acheter une canne à pêche. Donc faites attention aux initiatives des personnes que vous écoutez. Numéro 3. La troisième conseil, c'est de prendre le full package. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas faire ce qui s'appelle du cherry picking. Cherry picking, ça veut dire que vous voyez par exemple un milliardaire qui a gagné plein d'argent, mais vous voyez que c'est un fils de pute avec tout le monde. Et vous vous dites, ah mais je vais écouter ses conseils, mais je vais juste pas être un fils de pute. Ça marche pas du tout. Souvent, surtout sur une partie aussi déterminante de sa vie, ça doit être une grosse partie de son identité ou de son quotidien, le fait de tout ce qui vient avec le fait d'être milliardaire. Et bien souvent, les décisions qu'il a prises pour devenir un fils de pute et devenir milliardaire, souvent, il va y en avoir qui vont être communes et qui vont donner lieu aux deux mêmes trucs. Donc, ça va peut-être marcher pour être milliardaire, mais ça va aussi faire de vous un fils de pute. Donc, ne prenez pas, prenez des conseils de gens dont vous aimez bien le full package. Voilà. Ou alors, méfiez-vous. Soyez l'homme sage, pas juste l'homme intelligent. C'est déjà tous très intelligents. Alors, numéro 6, devenir adulte. Alors, celui-là, c'est ma préférée de la semaine. Pourquoi? C'est parce que ça vient d'une réflexion profonde que je me suis faite, où je me suis rendu compte, je sais pas pourquoi, j'ai un peu la réalisation que cette année, donc l'année de mes 26 ans, était probablement la première année où je me sentais vraiment comme un adulte. Alors, c'est un peu triste, hein, parce que j'ai l'impression qu'on grandit, de moins en moins vite à mesure que les générations passent. Et donc je me suis un peu interrogé sur qu'est-ce que ça voulait dire être un adulte et pourquoi est-ce que je l'étais devenu aussi tard en fait, pourquoi j'avais eu ce sentiment là sans pour autant savoir ce que c'était, pourquoi je me sentais adulte pourquoi est-ce que mon interprétation elle est assez simple, hein, je pense qu'aujourd'hui nos environnements ne nous poussent pas à être adulte et vous allez voir en fait avec la définition que j'en fais derrière, on n'est pas poussé vers les compétences qui sont requises pour devenir un homme ou une femme, enfin voilà, quelqu'un de responsable. Donc ça veut dire quoi être un adulte? C'est la première chose, le premier truc, quand j'imagine un adulte, j'imagine quelqu'un qui ne refuse pas ses responsabilités. C'est quelqu'un qui accepte qu'il doit en porter un certain nombre, qui ne rechigne pas, et qui accepte que personne ne va venir le sauver. Et donc c'est souvent quelqu'un qui a retiré les filets de sécurité et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'adultes qui en fait, vous savez que vous pouvez être un enfant même à 50 ans et c'est un des trucs pour lesquels, une des raisons pour lesquelles je vais beaucoup cracher sur eux, hein, sur les banquiers M&A, enfin, et de manière générale avec le manque de prise de risque, c'est que j'ai l'impression que c'est un truc qui est immature, c'est un truc d'enfant, c'est comme vouloir avoir papa maman qui va pouvoir te sauver quand t'as une merde. Pour moi, il y a vraiment, avec la notion de devenir un adulte, vient la notion de responsabilité, d'accepter que je suis maître de moi-même. Je ne veux pas de filet de sécurité. Je suis mon propre filet de sécurité et j'accepte les responsabilités qui me sont données. Donc, c'est la première chose. Ensuite, la seconde façon dont j'imagine un adulte, c'est quelqu'un qui est capable de contrôler ses pulsions slash émotions. Et pour ça, en fait, je l'imagine par opposition. Vous voyez un enfant qui passe devant un manège et qui tape une crise. Tu deviens adulte à partir du moment où tu es justement capable de contrôler tes pulsions immédiates. Et donc, en fait, tu deviens un peu moins un animal. C'est ça que ça veut dire. Pour moi, bon, être un enfant, c'est un peu être proche de... C'est un petit animal, quoi. Genre, ça regarde partout, ça a envie de bouffer des bonbons, ça a envie de s'amuser. C'est assez primitif. Donc, tu deviens un adulte quand tu arrives à t'affranchir de ces trucs-là. Donc, il y a quand même un aspect de discipline, de contrôle de soi que certaines personnes ne développent jamais. Et c'est ça, tout ce qui vient, en fait, avec ce que je vous expliquais sur les gens qui font que se mettre des tôles tout le temps, c'est profondément puéril. C'est des gens qui ne sont pas capables de contrôler leur pulsion de se mettre une tôle et de faire le foufou, quoi. De faire le fou tout le temps, de façon immodérée. Numéro 3, je pense que c'est être capable de prioriser quelqu'un d'autre que soi-même. Donc, troisième condition pour être un adulte. Et ça, je le définis encore une fois par opposition à un enfant. Vous savez, quand vous êtes gosse, si vous vous souvenez encore, vous avez l'impression que le monde tourne autour de vous. Donc, tout le monde doit s'abaisser à vos moindres désirs. Et vous avez du mal à considérer l'autre, vraiment. Et je pense que vous devenez adulte quand justement vous êtes capable de réaliser qu'il y a d'autres personnes dans ce monde et probablement d'autres personnes qui comptent autant que vous. C'est pour ça qu'en fait, une des meilleures façons de devenir adulte, c'est de devenir parent, je pense. Alors, j'ai jamais eu la chance d'avoir cette expérience encore. Mais ça, pour moi, c'est la meilleure expérience d'avoir quelqu'un que souvent tu vas aimer plus que toi-même. Et pour la majorité des gens, ça va être la première fois. Parce que la plupart des gens n'aiment pas leur femme, enfin, et leur femme n'aime pas leurs hommes. Enfin, bref, c'est pas tout beau, tout rose, les relations, vous le savez. Mais pour moi, ça apprend surtout la notion de sacrifice. C'est quand tu es capable de négliger ton bien personnel au profit d'une autre personne. Et c'est là que tu développes la vraie maturité. Et c'est pour ça que par opposition, la camaraderie militaire, je trouve que c'est un truc qui fait devenir adulte très tôt sur ce point-là. Parce que très vite, tu évolues avec ton équipe. Alors ça s'appelle probablement pas comme ça. Escadron, régiment, section, je crois que c'est section. En fait, t'arrives très vite, tu vas te battre pour le copain. Tu vas sacrifier un petit peu de ton bonheur, de ton énergie physique pour aller aider le poteau. Et donc, tu deviens adulte plus vite. Et t'acceptes, en fait, de te rendre... Donc, non seulement tu t'es rendu responsable de toi-même, mais tu acceptes la responsabilité de quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est le troisième truc. Le quatrième truc, selon moi, c'est mettre un terme à la naïveté. Bon, quand on est un adulte, on croit plus au Père Noël. Et donc, on accepte le monde tel qu'il est. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de grands adultes, de personnes qui ont l'âge d'être un adulte, d'être des adultes, qui sont encore des enfants parce qu'ils idéalisent le monde. Ils sont en mode « Ah non, tout le monde est beau, mais... » En fait, ils produisent assez peu de réflexions sur pas mal de sujets qui sont importants. Ils ont fondé leurs opinions sur des choses assez naïves. « Oh mais non, mais c'est mal ça. Ouh là là !» c'est des opinions. Il pourrait avoir une discussion avec un enfant de 6 ans sur leurs opinions politiques et il serait d'accord. Je sais pas pourquoi je pense à la politique à chaque fois, mais c'est parce que j'aime pas beaucoup ça, en fait, les gens qui ont une trop grosse partie de leur identité qui est ancrée dans de la politique. Et du coup, je vois beaucoup d'enfants je vois beaucoup de comportements assez puérils dans les manifestations de manière générale, mais je connais pas particulièrement j'ai pas beaucoup de potes qui sont manifestants. Et dans toutes ces opinions très simplifiées, des trucs, enfin, pour moi, c'est la naïveté. La naïveté, pour moi, c'est incompatible avec le fait d'être un adulte. Donc, c'est le facteur numéro 4. Le Père Noël n'existe pas, les potes. Et ce facteur numéro 5, c'est le fait d'être honorable. Pour moi, un adulte doit apprendre à tenir ses valeurs pour soi. C'est-à-dire pas pour faire plaisir à quelqu'un, pas parce qu'on va le voir en train de les respecter, mais il se tient à son propre code. Et que tu deviens un adulte quand tu as développé ton propre truc et que tu le respectes, que les autres soient d'accord ou pas. Ça, moi, il y a des choses qui me... C'est pour ça qu'en fait, vous savez, il y a un gros dilemme entre est-ce qu'il faut être arrogant ou est-ce qu'il faut être humble. C'est ça. Et en fait, pour moi, il y a un truc dans le fait d'être humble. Tu vois, vous voyez, quand j'écoute parler un Benoît Saint-Denis, c'est pas un mec qui flexe. Il y a plein d'autres champions qui sont comme ça. que je trouve trop stylé. Et parce qu'en fait, ce genre de choses-là, c'est quelqu'un qui tient la valeur, qui n'a pas besoin en fait, d'écraser les autres pour exister. Et qui va être prêt. En fait, bon, ça, c'est un exemple, hein. Mais par exemple, il y a moi une autre, la bravoure, le courage, ça c'est un truc, vraiment, ça me donne de fortes émotions, quelqu'un qui est brave. Et vous savez, parfois, les militaires, ils ont ce truc-là. Il y en a qui aiment bien raconter des histoires, mais il y en a plein aussi qui préfèrent être très pudiques, garder leurs histoires pour eux. En fait, les mecs ont fait des actes de bravoure extrêmes, et c'est pour eux, c'est pas pour les autres. Ça, c'est un truc que je trouve stylé. Et donc c'est apprendre à avoir un code, en fait c'est simplement pour moi le cinquième critère d'être un adulte, c'est développer son propre code de valeur, code d'honneur, système de valeur, vous le prenez comme vous voulez, et surtout l'intérioriser, c'est-à-dire le respecter pour votre propre satisfaction et pas celle des autres. Voilà. Donc finalement, si quand je reprends tout ça, quand je regarde tout ça et que je me demande pourquoi est-ce que j'ai réalisé récemment que j'ai eu le sentiment récemment de devenir un adulte. Je sais pas si la transformation est terminée, mais en tout cas je me sens mieux, plus un adulte cette année que l'année d'avant. C'est parce que j'ai pris la décision l'année dernière de me respecter. Et en fait, quand tu te respectes, tu te rends compte que les cinq facteurs, ils tombent tout seuls. Donc je respecte le fait que j'ai des responsabilités, j'arrête d'être un bouffon qui est mené par l'émotion, je respecte les autres. Et je me respecte moi-même. Enfin, il y a tellement de trucs. En fait, quand tu commences à te respecter toi-même et à avoir un petit peu des standards pour ce que tu acceptes de toi-même, finalement, bah, c'est comme ça que tu deviens. Selon moi, tu deviens un adulte si tu poursuis ce truc-là assez longtemps. Voilà. Et donc, c'est aussi pour ça. J'ai lu un petit commentaire la semaine dernière qui disait, c'était sur les débutants, qui disait, mais pourquoi est-ce que tu chies autant sur les débutants? T'as un problème. Je sais plus quoi. Bref, t'as un complexe ou je sais pas quoi. Donc cette phrase est certainement proférée par un mec qui s'est senti un petit peu attaqué et qui était un débutant. Alors je ne m'excuse pas, va te faire enculer, mais je voulais clarifier un petit peu ce point là si je suis si dur en fait avec les gens qui démarrent, c'est parce que moi je donne pas des conseils aux enfants en fait. je suis pas votre père. Je ne sais pas comment transformer un enfant en un adulte, je ne sais pas faire. Il y a plein de gens qui vont peut-être vous aider ou vous inspirer à le devenir. Je ne fais pas partie de ces gens-là. Moi, je veux aider les adultes à devenir encore plus adultes. Et c'est fine, hein, d'être un débutant, mais je ne suis pas votre guide. Je ne peux pas vous aider, je ne sais pas vous aider. Et donc, je suis désolé si ça vous pique quand je dis ça. Mais malheureusement, c'est le cas. Je parle avec des adultes. Voilà, les enfants, c'est à la table des enfants. Voilà, donc dernier point là-dessus, je voulais parler du fait que souvent ce qui t'inspire à devenir un adulte, c'est de voir d'autres gens qui sont des adultes et qui sont stylés. Donc j'ai plein de modèles dont je vous parle de toute façon dans tous ces épisodes, de modèles entrepreneuriaux qui en fait sont un peu ce que j'imagine être quelqu'un de respectable, d'honorable et tout, et que j'aspire à avoir des caractéristiques communes avec ces gens-là. Donc je pense au Chris Williamson, Alex Hormozy, quelques philosophes par-ci par-là, des gens que je trouve respectables. Ou alors des sportifs, vous savez, dans les Michael Jordan, ça j'aime beaucoup. Et je me rendais compte qu'on avait beaucoup de mal en fait à avoir des modèles. Alors, je pense que c'est principalement pour, je sais pas. Bon, je prends la problématique forcément du côté homme parce que c'est mon cas, mais quand t'es un mec, t'as un peu de mal à trouver des modèles médiatisés ou qui partagent du contenu qui te plaisent. Et c'est pour ça qu'en fait, quand t'as un manque de modèles et des gens un petit peu perdus, et ben ils vont, c'est pour ça que les gens vont écouter du Andrew Tate, etc., qui sont en fait des caricatures de ce genre de choses là et qui vont prétendre en fait t'apprendre comment être un adulte, comment être quelqu'un de prêt pour ce monde des adultes qui est terrible et qui est caricaturé dans des visions un peu de merde. Ça manque en fait de gens. Je trouve que Benoît Saint-Denis c'est un bon exemple d'ailleurs sur ce truc là de comment enfin, d'un adulte responsable et un peu admirable. Il y en a plein d'autres, hein. Mais je trouve qu'on manque en France de gens qu'on a envie d'admirer comme ça. Voilà, donc c'était ma petite réflexion. Est-ce que c'est vrai, si vous avez des gens que vous trouvez respectables, je suis très chaud que vous les partagiez. Mais il y a aussi un truc, c'est que voilà, plus on est faible, je trouve, moins on a développé cette solidité de l'adulte, plus on est attiré par des modèles caricaturaux, j'ai remarqué. Donc par des modèles très... qui sont pas très complexes. Hein. Grosse Ferrari, grosse thune, plein de meufs super bonnes. Enfin, ce truc-là ne parle qu'aux gens qui ont pas beaucoup médité en fait sur les sujets.
Voilà, donc c'était devenir adulte, point numéro 6. Point numéro 7, ça s'appelle respecter quelqu'un à qui on s'oppose. Donc j'ai reçu aussi un commentaire qui était très intéressant pour le coup. C'est pourquoi tes potes avec Yumi alors que tu parles mal du dropshipping? Et honnêtement, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question qui mérite d'être clarifiée. Alors, vous connaissez ma position de façon sur tous ces business un peu opportunistes. J'en ai beaucoup parlé. Donc que ce soit souvent le dropshipping, NFT, IA. Il y a aussi un truc à la mode en ce moment, c'est les agences OnlyFans. Alors ça, pour le coup, c'est vraiment le... Je vais pas m'engager dans... J'ai vraiment... Faut que je me force pour avoir du respect pour les gens qui font ça. C'est un autre type de business, pas juste de l'opportunisme. Je porte pas vraiment de jugement moral dessus. Sur est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut pas le faire. Je pense que s'il y a des gens qui l'achètent, bon bah, j'aimerais bien qu'il y ait plus de clients pour ces trucs-là plutôt qu'il y ait plus de business. Mais donc je m'associerai pas de façon avec des gens qui font ça, donc business wise. Mais je vous ai déjà dit aussi, j'aime pas porter des jugements sur les gens. C'est pas parce que quelqu'un fait ça que c'est une grosse merde. Ça se trouve, il y a plein de gens qui montent des agences OnlyFans et qui sont hyper serviables, qui vont voir leur grand-mère tout le temps. Je sais pas pourquoi je pense à ça en particulier. Moi, je me dis, j'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens qui vont voir leur grand-mère régulièrement, qui les appellent, et j'aspire à ce genre de choses-là. Je sais pas pourquoi j'ai fait une digression. Mais bon, il y a peut-être des gens qui sont hyper vertueux et qui ont une incohérence avec le fait, bon voilà, ils ont un business OnlyFans, mes couilles, j'en sais rien. En fait, la plupart du temps, c'est très très dur de se former un jugement sur quelqu'un. Parce qu'il faut balancer des trucs. Il y a le mec qui fait du dropshipping, d'accord, mais il est sympa. Mais comment je fais? Bon, c'est très très dur. Donc moi, sur les gens, je préfère fonctionner à l'instinct. Est-ce que je passe un bon moment avec la personne? Oui, non, et ça continue pas. Et donc, c'est pour ça que, même si je ne valide pas le... Enfin, je ne ferai pas le genre de business par lequel le Yumi and Similar se sont fait connaître. Il y a énormément de choses que j'admire profondément chez Yumi et des choses que j'aspire à partager avec lui. Donc c'est quelqu'un de très discipliné, c'est quelqu'un de très courageux qui reçoit beaucoup de critiques, qui continue à faire des trucs, qui cause montrer qui il est, qui partage des idées, qui partage des trucs même si c'est pas populaire. Donc ça, je respecte énormément, c'est très respectable. Et il a aussi cette volonté d'excellence que je reconnais, j'ai l'impression de partager. Enfin, je reconnais les gens qui l'ont, l'ambition, etc. C'est truc très fort. Et vous voyez que c'est pas... En fait, je peux respecter quelqu'un. Alors, la pendule s'appelle respecter quelqu'un à qui on s'oppose. Alors, il se trouve que Yumi, c'est pas l'exemple de quelqu'un à qui je m'oppose. Le bon exemple, ce serait plutôt genre de prendre un concurrent, donc une agence concurrente, etc. Ou similaire, quoi. Mais tu peux respecter quelqu'un dont tu ne valides pas une partie de ce qu'il fait. Enfin, et encore validé. Tu vois. Qui suis-je? Il a pas besoin de ma validation là-dessus. Et en fait, t'as pas besoin de vouloir être quelqu'un dans son entièreté. Pour le respecter. Tu peux respecter des parties, tu vois. Il y a certaines choses qui t'inspirent le respect pour une personne et d'autres que t'aimes moins. Et ça t'empêche pas de traîner avec quelqu'un, d'être pote avec quelqu'un. Malheureusement, mes potes sont pas irréprochables. Je ne suis pas non plus irréprochable et j'ai quand même des amis. Donc sur ce sujet des concurrents, en fait, il faut bien se dire que tout ce qui est discipline, courage, volonté d'excellence et tout, il y en a certainement aussi beaucoup chez des concurrents à moi. Et j'ai quand même envie de les défoncer. Mais je les respecte. Je les respecte parce que ce genre de choses-là, c'est des choses que je respecte chez les gens et je suis pareil. Donc souvent, c'est là où tu te rends compte que ton concurrent est pareil que toi. Et que tu n'as aucune question. Enfin, il n'y a pas de la place, ça ne sert à rien de... Il n'y a pas de détestage, comment est-ce qu'on dit là Ce n'est pas l'endroit pour détester quelqu'un. On ne déteste pas un concurrent. On déteste un mauvais concurrent qui vous fait des coups de pute, mais on ne déteste pas un concurrent qui est bon. C'est pas détester le mot. On est dégoûté parce qu'on se fait battre, on a le seum. Mais on va pas le détester, je le déteste, non, c'est pas le bon mot pour ça. Et je pense qu'en fait, ça fait beaucoup écho à un commentaire comme ça, deux choses qui se sont perdues. La première chose, c'est la nuance, c'est-à-dire que les choses sont pas black and white, tu n'es pas quelqu'un que t'aimes pas, quelqu'un que t'aimes, c'est pas aussi noir et blanc. Et ensuite, c'est le respect des adversaires, ça c'est vraiment un truc pour moi qui s'est... Et alors, pas vraiment un coup de gueule, mais moi je trouve que c'est une des très mauvaises valeurs qui est véhiculée par le foot, c'est que c'est très rare d'avoir du vrai respect des adversaires et que c'est beaucoup plus commun de chier dessus. J'aime pas beaucoup les valeurs du foot, même si j'aime beaucoup regarder le foot. Les valeurs du foot, c'est pas un truc que je kiffe. Je trouve que c'est un truc, par exemple, au rugby. Alors, je suis pas du tout le rugby, hein. Je regarde aucun match de rugby, mais je respecte beaucoup plus cette valeur-là du ballon ovale envers les adversaires. Alors parfois, tu vois, tu leur pètes la gueule. C'est l'exemple parfait pour moi. On peut reprendre exactement ce que je viens de dire pour une opposition de rugby. Le mec, il t'a mis un gros tampon, il t'a blessé. Il y a eu des petites salades de phalanges qui ont été données à la mi-temps. mais à la fin, tu serres la main. Bon, bah, bon combat. Écoute, on est pareil. On a tout donné. On a fait la même chose. Enfin, respect. Et tu t'es opposé. Tu peux respecter quelqu'un à qui tu t'es opposé. Et pour moi, ça, c'est vraiment la marque de s'être posé deux, trois questions dessus. Donc voilà. Donc je suis avec Kyomi. Ça me pose aucun problème. Et c'est pas pour autant que je ferai le même business que lui. Et moi, je vois pas d'incohérence là-dedans. Si t'en vois une, c'est ton problème. Voilà. Pour du numéro 8, la voix intérieure. Donc, alors ça, c'est une petite citation que j'ai déjà partagée aux membres du Discord et que j'ai traduite pour l'occasion. Je vais vous la lire et la commenter derrière. Même si vous voyez, vous verrez qu'elle se, elle pourrait se passer de commentaire. Donc, ça parle de la voix intérieure, c'est-à-dire le truc, le discours que vous vous racontez à vous-même. Donc, alors c'est en anglais, c'est traduit, c'est sur le trou du cul qui vit dans nos cerveaux, on the asshole that lives in our brain. Deux points, ouvrez les guillemets. Si nous rencontrions socialement cette figure, donc la personne là qui parle mal dans la tête, ce personnage accusateur, ce critique interne, ce chercheur de fautes implacable, nous penserions qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Il serait tout simplement ennuyeux et cruel. Nous pourrions penser que quelque chose de terrible lui est arrivé, qu'il vit dans l'après-coup, dans les retombées d'une catastrophe, et nous aurions raison. Et donc ça, c'est écrit par Adam Phillips, dans un essai qui s'appelle « Contre l'autocritique », que je n'ai pas lu d'ailleurs. Qu'il faudrait que j'aille consommer. Alors, bon, déjà, c'est une très belle application du modèle mental de se voir à la troisième personne. Donc, en gros, personnifier la voix dans notre tête. Mais j'ai trouvé que dit comme ça dans cette citation, c'était incroyable. En fait, est-ce que tu fréquenterais quelqu'un qui te parle aussi mal que le mec dans ta tête? La réponse est très souvent non. La question, c'est pourquoi est-ce que tu acceptes. Tu acceptes dans ta tête. pourquoi tu acceptes ce bâtard-là? C'est pas parce qu'il a résidence CDI et maison 3 étages dans ton cerveau qu'il a le droit de parole. Tu peux le mettre au grenier, quoi. Séquestre-le au grenier, en fait. Genre, il devrait être découpé dans un frigo. Enfin, non, elle est nulle, cette méthode. En fait, il faut le faire taire, quoi. Cette personne, il faut le bâillonner. Tu le mets au grenier, pop, pop, pop. Et il n'a pas le droit de parole, en fait. C'est pas parce qu'il habite dans ta tête qu'il a le droit de parole. T'as le droit de couper. Et j'ai trouvé ça trop stylé de voir ça. Donc ne découpez pas la voix intérieure de votre tête pour la mettre dans un sac dans votre frigo. Je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à certainement un passage d'une série d'horreur avec une histoire de meurtrier. Mais je trouvais ça cool de personnifier la voix intérieure. Ça m'a beaucoup fait réfléchir. Et voilà, rien de plus à dire là-dessus. C'était la pendule numéro 8. Pendule numéro 9. Quand il n'y a pas grand-chose à faire, on grossit les problèmes. Bon. Est-ce que vous connaissez l'expression, les amis, se noyer dans un verre d'eau? Ça veut dire, en gros, mourir de pas grand-chose. C'est, donc, en gros, c'est... par quoi est-ce que je commence? Je réfléchis à si je vous parle d'un exemple, mais je pense que je manque un peu de précision. J'étais allé mater un film dans lequel j'avais lu un commentaire sur Allociné qui était... c'est un ramassis d'ouragan dans un verre d'eau. Gros, ça veut dire qu'il se passait rien dans le film, qu'on faisait un drame pour pas grand chose. Là, c'est la même chose. Se noyer dans un verre d'eau, ça veut dire mourir d'un faible stimulus ou un truc comme ça, quoi. Et donc, je vous dis ça parce que vous savez, mon travail, c'est de trouver des nouveaux fondateurs de boîtes. Et donc, j'en parle à beaucoup, beaucoup de gens qui ont atteint les 10 000 euros par mois, qui sont free, qui sont bons. Et parfois, ils se cassent la tête sur des trucs et ils complexifient des trucs. Et maintenant que je vois ça dans le regard extérieur, je comprends pourquoi. Si peu de personnes arrivent vraiment à passer cette barre-là des 10, 20, 30 cas par mois, c'est parce que ça nécessite de la simplicité, ça nécessite l'inverse. Ça veut faire genre des... En fait, les gens veulent faire ouais, automatisation, lame list, make, chat, GPT, etc. Mais en fait, t'as 4 clients. Quoi. De quoi est-ce que tu me parles? C'est pas pour toi, ce genre d'automatisation. et en fait, moi, je prends un malin plaisir dans tous les calls à essayer de faire l'enfant dans la pièce, à dire « Pourquoi t'as pas fait ça ?» Et si tu faisais un truc un peu plus simple, il me regarde avec des grands yeux en mode putain, c'est ça qu'il va me dire là, le mec là. C'est son conseil. Il va pas me donner un logiciel secret que je ne connaissais pas qui va me permettre d'avoir 100% de taux de réponse à ma prospection. Eh bien non. Donc, et à côté en fait, ce qui était marrant, c'est que j'ai l'inverse. J'ai des fondateurs, souvent des bourrins, c'est les meilleurs, c'est ceux qu'on arrive à recruter. Donc c'est les Tom, les Jules. Les gens qui sont l'inverse, qui ont une vraie faculté de simplification et qui te disent bon bah j'ai fait quoi la semaine dernière, bon bah j'ai shooté 50 mails, j'ai envoyé 5 posts LinkedIn, j'ai fait 10 rendez-vous, j'en ai closé 4. Et le mec, enfin, souvent, enfin, parfois on est dans des calls, ça dure 5 minutes, on est là, bon, Moi, à la limite, je me sens un peu mal. Je me dis, bon, bah, ok. Et en plus, ils sont trop contents, ces fondateurs. Tu vois, des discussions, ils sont là, ah, putain, ça m'aide. Alors, toi, tu te sens inutile par rapport à ces gens-là qui ont une faculté de simplification de ouf. Et c'est pour ça que et ce qui est très chiant avec la faculté de simplification, c'est que parfois, ça se perd avec le temps. T'as des gens qui sont très. T'as des phases où ils arrivent bien à simplifier, des phases où il se passe pas grand-chose, et c'est là où je veux en venir avec cette pendule. Et donc, du coup, ils essaient de complexifier les trucs. Donc, moins t'as de trucs à te mettre sous la dent, plus parfois tu vas essayer de faire des trucs sur la. Sur des plans sur la comète, à faire des fiches Notion qui servent à rien et tout, parce que tu penses que ça va résoudre tel problème. C'est pour ça qu'il faut l'exercice de priorisation. J'indique, j'insiste vraiment dessus. C'est mettez-vous au début de chaque semaine des trucs. Je veux avoir accompli tel truc. Et vous allez voir combien de fois votre cerveau dans la semaine va dévier de cette tâche du début. Va vouloir faire des trucs qui ne servent à rien. Alors que vous étiez conscient. Au début de la semaine, vous vous êtes dit, ce sont les trois tâches les plus importantes de ma semaine. À la fin, vous en aurez fait une sur trois ou deux sur trois. Et vous vous demanderez pourquoi. Et vous regardez, putain, j'ai passé plein de temps sur des trucs qui servent à rien. Et tous les cerveaux le font. Ne croyez pas que vous êtes meilleur que ça. Et ce qui est paradoxal, et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est que moins il y a de choses à faire, plus les gens vont grossir leurs problèmes. C'est comme cette superbe citation qui dit « La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. » Les problèmes, c'est pareil. Moins on a de problèmes, plus on les étale. Parce qu'on oublie la remise en perspective. Et donc là-dessus, un point important, évitez les points trop réguliers parfois. Quand vous essayez de voir quelqu'un plusieurs fois par semaine, ou toutes les semaines sur une activité qui a une progression assez lente, parfois ça donne envie de meubler. Vous avez envie de faire des trucs alors qu'il n'y a pas besoin de faire des trucs. C'est pour ça que c'est important de faire attention à la réunionite, la maladie des réunions, qui consiste à faire des réunions pour tout. D'avoir des points de suivi tout le temps, etc. Choisissez la bonne récurrence. Et parfois, il faut juste faire la même chose que la semaine d'avant en pareil, quoi, ou alors en plus fort. Et le call, il dure 2 minutes. Donc n'ayez pas peur, parfois c'est une victoire, ce genre de choses-là. C'est pour ça qu'on a marqué cut de crap, nous, dans la culture. C'est parce qu'on a vraiment remarqué que les plus gros succès, souvent, ils sont épatants de simplicité. Ça ne fait pas de vous quelqu'un d'idiot, hein, de réussir de façon simple. Souvent, même d'ailleurs, réfléchissez. Hein. Tous les scientifiques et tout dont on se rappelle, c'est les gens dont on a compris des idées complexes, qui nous les ont simplifiées, les Einstein. C'est ça, c'est parce qu'en fait, les gens, ils disent E égale MC2, ils ne savent pas ce que ça veut dire. Parce que le mec t'a résumé je sais pas combien d'années de recherche d'un truc probablement génial que personne n'avait réussi à craquer dans un truc que n'importe quel putain de péon du monde peut réciter comme ça. N'est-ce pas génial? Ben ça, c'est un exercice magnifique de simplification. C'est voir plein de choses qui sont complexes, qui sont pas accessibles aux autres, et les simplifier. C'est ce qu'a fait Einstein, j'imagine. Bon, moi, c'est un peu de la philosophie de comptoir que je vous fais. Hein. Je n'ai aucune idée de la vie d'Einstein. je connais très peu de détails, mais en tout cas, vous voyez que c'est quelqu'un qu'on connaît sans forcément connaître son histoire, donc ce qui est un très bon signe. Donc voilà, quand il n'y a pas grand-chose à faire, on grossit les problèmes, donc faites attention à ne pas meubler pour meubler et accepter la simplicité. Voilà. Et on passe à la numéro 10, qui est la citation de Jean-Pierre, donnée entre quelques bouteilles de vin du Jura. Quand il n'y a plus de foin dans les ateliers, les ânes se battent. Et alors ça vient d'une question que lui a posée le Pimps. Le Pimps a adoré le bombarder de questions en mode « C'est quoi tes trois meilleurs conseils pour ?» Et il répondait à chaque fois avec beaucoup d'entrain. Et à un moment, il a demandé « Dis-moi Jean-Pierre, c'est quoi le secret d'une bonne association ?» Et là, Jean-Pierre répond très sérieusement « La profitabilité. » Et ça nous a tous pété de rire. Et après il développe un petit peu et il nous explique pourquoi. Et alors c'est marrant parce que c'est à côté de la question. Le secret d'une bonne association, c'est bon, tu veux savoir comment travailler avec tes associés, et lui il t'explique qu'il faut avoir un business rentable. Mais en fait c'est génial, c'est absolument génial comme réponse. J'ai trouvé ça, mais en fait, c'est brillant parce que il a raison. La croissance efface les problèmes, vraiment. Et donc ça veut dire que en fait, il faut bien différencier deux choses, des bons associés et une association qui se passe bien. Quand tu as un business qui grossit, tu peux avoir des associés qui ne sont pas du tout compatibles, tout marche. Parce que la croissance, vraiment, c'est un truc, et ça, vous le savez, si vous avez un business depuis assez longtemps et que vous avez eu l'occasion de comparer une phase de croissance à une phase où il n'y a pas de croissance. Moi, j'ai eu cette chance-là. Et je sais que tu crois que la croissance t'efface tous ces trucs que tu découvres dans des phases où ça se rétracte, tu découvres toutes les merdes que tu avais laissées sous le tapis et que tu n'avais pas besoin de traiter parce que tout grossissait. Et donc, en fait, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de bonne association, déjà, sans bon business de base. Donc, ça ne sert à rien de trouver une complémentarité de compétences, de personnalité, et tout ça et mes couilles, si le business il marche pas à la base, parce que vous allez faire que vous embrouiller. Et donc inversement, ça veut dire quoi? Ça veut aussi dire que vous savez pas si votre association est bonne avant que le business il ait ralenti et qu'il ait traversé la tempête. Moi, Dieu merci, j'ai eu l'occasion de traverser des tempêtes avec mes associés. Rien ne s'est délité. Donc c'est ce qui me rassure dans le fait que je pense qu'on a un bon business et une bonne équipe d'associés sur ce point-là. Voilà, donc quand il n'y a plus de foin dans les ateliers, les ânes se battent. Donc faites en sorte qu'il y ait toujours du foin dans vos ateliers. Et essayez pas de voir un problème d'association là où il y a juste un problème de traction ou de croissance. Voilà pour les 10 pendules, on va passer au meilleur de la semaine. J'ai 3 contenus à vous recommander, les amis. Ils seront présents dans la newsletter si j'oublie pas de les mettre. Oula, bon, j'ai toujours micro à la main. Alors, ça fait 1h20, parfait. Ça va faire une petite 8h40 comme d'hab. 8h30, probablement. Donc le meilleur de la semaine, j'ai 3 trucs à vous partager. Le premier, c'est le podcast des bâtisseurs. Alors là, je vous recommande carrément le podcast, hein, pas des épisodes en particulier. Allez vous mater tous ceux sur des... Bon, c'est un truc de ouf, genre ils reçoivent des membres des forces spéciales et tout. L'épisode avec Benoît Saint-Denis est une masterclass. Il y a un épisode avec le Raptor aussi, qui est trop cool. Et dedans, je sais plus qui est l'invité, j'ai encore oublié. Ça doit peut-être être encore le mec là, Comte-Sponville, qui parle de Memento Mori. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Les gens pensent que ça veut dire « Souviens-toi que tu vas mourir ». Et en fait, ça veut dire « Souviens-toi que tu es en train de mourir ». Et j'avais trouvé ça trop stylé. Finalement, à partir du moment où on vient au monde, on est en train de mourir progressivement. Et j'ai trouvé la citation, enfin j'ai trouvé que le mot est très beau, enfin voilà, la phrase est très belle. Donc dedans il y a ce genre de, enfin dans ce podcast il y a ce genre d'observation et tout, j'adore. Numéro 2, ça vient d'une newsletter de, alors c'est Austin Kleon qui la reporte, mais c'est écrit par Tom Hodkinson, qui quand on lui demande comment mieux dormir, il dit « be tired in the first place ». Donc en fait, commence par être fatigué, tu vas bien dormir. Donc j'ai trouvé ça stylé. J'adore les façons de résoudre les problèmes comme ça, les citations qui en fait contournent un sujet tout en y répondant, comme ce bon Jean-Pierre. Il rappelle qu'une bonne façon de bien dormir, c'est quand même de faire plein de choses de sa journée, quoi. Et j'ai trouvé que ça s'est pas marqué dans les conseils des experts du sommeil. Je trouvais ça cool. Et ensuite, je voulais partager une petite newsletter qui est écrite sur une stratégie de basket qui s'appelle le mismatch et qui est intéressant parce qu'elle est applicable directement aux stratégies d'entreprise. Je vous mettrai le lien. Un mismatch, c'est quoi? C'est quand, si vous avez déjà fait du basket, c'est quand il y a un écran et qu'il y a un... Vous savez, quand c'est 5 contre 5 hein, du basket, et donc il y a des postes. Il y a les petits qui sont souvent dans les postes meneurs, arrière, et il y a les grands qui sont soit ailier fort, soit pivot dans la raquette. Eh bien, ce que tu veux faire quand tu es une équipe qui attaque, souvent, c'est essayer de faire en sorte qu'un grand se retrouve à défendre sur un petit, ou alors un petit sur un grand, parce que ça te permet d'avoir un mismatch. Ça veut dire que si c'est un petit, bah, il va avoir plus de vitesse, il va réussir à passer le grand. Si c'est un grand qui attaque un petit, bon, bah, il va se mettre de haut panier, il va le pousser, il va l'enfoncer, il va mettre un panier. Et donc, pour créer ça, pour créer un mismatch, tu dois faire un écran et souvent faire en sorte que la défense change. Voilà. Bon, en gros, tout ça pour dire que c'est très intéressant quand tu évalues une stratégie d'entreprise qui va toujours être opposée à un adversaire ou à une situation, d'essayer de regarder où est-ce que tu as des mismatchs. C'est-à-dire où est-ce que toi tu as un grand et l'autre il a un petit. Où est-ce que tu es rapide et l'autre il est lent. Et d'essayer toujours d'aller faire le combat là où tu as un avantage. Encore une fois, il n'y a aucun prix. Enfin, malheureusement, dans les batailles entrepreneuriales, il n'y a pas de règles. Hein. Donc c'est vraiment celui qui choisit le terrain, il gagne. Celui qui choisit la discipline, il gagne. Il n'y a pas de règle, donc il faut gagner par tous les moyens. Et j'ai trouvé ça cool de penser le truc comme ça. Donc réfléchissez au mismatch, parce que vous avez des grands, les autres des petits. Et tout sera linké. On passe à la FAQ, en commençant par nos amis de Discord. Je pense que... Alors ouais, 1h23, il est bientôt minuit. Je pense que je ne vais pas trop tarder sur les questions, mais j'ai quand même un peu de temps. Lucas Lemery, de Miura Digital, membre du Discord. Quand on se lance sur un réseau social LinkedIn, faut-il prioriser l'engagement ou l'autorité? Alors, Lucas Lemery, il faut prioriser deux choses qui ne sont pas écrites dans ton message. C'est la régularité, première chose, quand on se lance sur un réseau social, c'est-à-dire que tu n'as pas le droit de tirer à une conclusion sur ton canal avant d'avoir fait 100 posts. Et si ça te décourage quand je dis ça, ne t'attends pas à avoir des résultats. Et ensuite, seconde chose, c'est prioriser le kiff. Parce que forcément, ça vient avec la consistance. Ça va être très rare de tenir pendant 100 jours quelque chose que tu détestes. Donc, il faut trouver une petite satisfaction quelque part. Moi, j'aime bien voir le truc comme un jeu vidéo, donc voir les chiffres qui augmentent. Ça me fait plaisir, mais je te conseillerais de prioriser ça. Et, Et en fait, derrière tout, l'engagement viendra, l'autorité viendra avec le temps, avec la, enfin, la consistance est plus importante. Simon de ID Agency. Comment mettre en place un système de primes juste dans le cadre d'une boîte de services qui implique le marketing pour l'acquisition, les sales pour dérouler le process commercial global, les consultants pour amener l'expertise. Une idée d'un système pour récompenser toute la chaîne de valeur immersive. Alors, là-dessus, ce qu'il faut accepter déjà, c'est qu'un système de variables, il sera toujours imparfait. Et alors, c'est comme n'importe quelle règle ou n'importe quel théorème. C'est pas parce qu'il y a des exceptions que le théorème n'est pas intéressant. Donc, il faut là-dessus essayer d'isoler la variable qui va être la plus importante pour que si jamais tu venais à buter toute la fiche de poste, la personne sache quand même fonctionner dans son travail. Donc nous, ce qu'on fait sur les consultants, c'est qu'ils sont indexés sur la valeur du portefeuille. Et cette valeur du portefeuille est amplifiée, multipliée selon l'ancienneté du client. Donc, ça veut dire que si tu as gardé un client longtemps qui paye beaucoup, bah, tu es plus récompensé. Et c'est comme ça qu'on fait les variables. Donc ça, c'est pour les consultants. Pour les sales, on fait un truc très simple, bon, bah, taux de closing. Et ça, c'est en fait, je vous ai déjà parlé, je crois, du phénomène du mid-wit. Le mid-wit, ça veut dire... ça fait référence à ce même qui est une courbe en mode tu commences à, par exemple, je vous prends l'exemple de quelqu'un qui veut commencer à prendre des notes. Au début, il note dans son application Notes sur le téléphone, puis après, il découvre Notion, et puis il découvre une synchronisation avec Make, puis après Obsidian, puis après des trucs de ouf, etc. Il fait des trucs de malade, après, il se rend compte que ça lui prend beaucoup trop de temps, et donc il revient à l'application Notes. Et donc l'idiot pense la même chose que le génie. Donc le mid-wit, et pourquoi je vous parlais de ça? C'est parce que voilà, au début, tu vas faire un variable simple, puis après, tu vas essayer de faire des variables compliquées. Et puis tu vas refaire des variables simples. Donc, fais des variables simples juste dès le début. Voilà. Donc, les sales là-dessus. Est-ce qu'il y avait un autre truc auquel je n'ai pas répondu? Les consultants. Marketing pour l'acquisition. Bon, et puis après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tu peux. Moi, j'essaie d'avoir les variables. Donc, un truc assez général. Et après, des OKR. Et alors, ce que tu peux faire aussi pour te laisser un peu de liberté, c'est d'indexer sur le nombre d'OKR qui sont cochés. Indexer un variable là-dessus. Comme ça, ça te permet de faire changer les priorités. Je pense à ça parce que tu parles de marketing. Le marketing, parfois, c'est l'objectif, ça peut être de... Je pense à mon équipe contenu. Ça peut être de produire un certain nombre de contenus. Puis après, moi, ça va être, par exemple, de maximiser mon ratio argent investi, nombre de minutes, enfin, nombre d'heures de contenu visionné. Et ça te permet de donner un peu de flexibilité en faisant signer des lettres d'objectif. Voilà. Alors, l'IS de Control Resell. En tant qu'employeur, doit-on être sans faille? A-t-on le droit à du repos? Depuis que j'ai recruté, j'arrive pas à prendre de pause car j'ai cette pression qui me dit tu dois montrer l'exemple. Alors ça, c'est le premier truc dont il faut vraiment se libérer parce que ça va te donner peut-être un boost sur le court terme. Tu vas travailler comme un chien, mais tu vas tout ce que tu vas prendre en pression ne vaut pas le coup derrière. Donc en fait, c'est ton devoir de pas d'être sans faille, mais de donner l'exemple. Et donc si tu penses foncièrement que les gens doivent pas se reposer, eh ben ne te repose pas. Mais tu vas te rendre compte, comme tout le monde, que tout le monde a besoin de repos. Donc en fait, il faut que tu donnes l'exemple à ton équipe. Et ça, moi, je le fais, c'est pour ça que je prends des vacances et tout, et que je ne m'en veux pas. Et évidemment, j'ai toujours cette petite voix dans la tête qui me dit, je pourrais être en train de travailler. Et en plus, moi, j'ai parlé dans tout cet épisode de divertissement, tu dois dire, ah, mais non, mais c'est pas la priorité. Mais en fait, il peut y avoir du divertissement très rentable, il peut y avoir du repos très rentable. Justement, tu n'as pas non plus un droit au repos, tu as un devoir de repos. Tu n'es pas en surhomme, et c'est pas d'aller briser les règles de la nature, tu dois te reposer, tu dois trouver, ce que tu dois trouver le plus vite possible, c'est quel est ton équilibre. Qu'est-ce que ça veut dire se reposer, combien tu dois dormir, et ensuite derrière tu pourras faire tes optimisations. Mais tu ne dois pas être sans faille. En fait, justement, bah, je vais encore prendre une métaphore YouTube pour remplacer le mot entrepreneuriat. Les gens dans du contenu, ils relate autant avec tes faiblesses qu'avec tes forces. Justement, ils disent, ah oh, putain, ce mec-là, il a des défauts, incroyable. Il bégaye, il se perd dans ses idées, il mâche un peu ses mots. Dis donc. Et ça, ça les fait autant t'aimer que les trucs stylés que tu fais. C'est ça qui est un peu dur à comprendre. Donc finalement, non, c'est beaucoup plus inspirant, je trouve, un leader. Enfin, moi, ça m'inspire beaucoup de voir un quelqu'un, un créateur de contenu, whatever, dont je vois une faille béante. Parce que je me dis, putain, il a réussi à arriver là avec une faille béante, trop stylé. Voilà. Comment tu gères ça au quotidien? Tu me dis, du coup, tes astuces pour montrer l'exemple en pouvant se reposer des fois. Bon, bah écoute, moi déjà, je pars du fait que personne n'a le droit de me dire quand est-ce que je me repose et je travaille. C'est ma décision. Et donc j'essaie de faire en sorte que ce soit la même chose pour les gens de l'équipe. Je ne me rappelle pas du moment où on a refusé un congé. Je crois qu'on n'en a jamais refusé. Ou alors pas moi. Mes astuces pour montrer l'exemple, bah, vis ta vie, fais les trucs que tu as envie de faire. Mais en vrai, si tu n'as pas envie de te reposer, ne te repose pas. Et tu vas avoir des gens qui vont être des gros charbonneurs au début. Et puis après, tu te rendras compte comme tout le monde un jour que tu auras envie de te reposer. Mais moi, au début, pareil, je faisais que charbonner. J'avais pas envie de prendre de vacances. C'est ça qui est dur. Donc, ne te force pas à prendre des... Enfin, bon, c'est l'autre côté de la réponse. Ne te force pas à prendre des vacances si t'as pas envie d'en prendre. Ça, c'est... En tout cas, ça, c'est ridicule. Parce que tout le monde va dire, ouais, mais prends des vacances, fais attention. Tu sais très bien, tu te connais. Et si tu te connais pas, bah, tu vas manger une porte et après, tu vas te connaître. Fricoben. Avec le skate viennent les opportunités. Comment fais-tu pour garder ton focus? As-tu des leçons, expériences à partager sur ce sujet? Tu en as déjà parlé niveau boîte, mais pas à ma connaissance niveau perso. Et bah, niveau perso, je crois que je suis hyper, hyper, hyper focus parce que je me suis défocus. Parce que j'ai essayé d'investir. Mon principal défocus, enfin, j'en ai eu plein. Parce que j'aime beaucoup, encore une fois, c'est le défaut qui vient avec la qualité qui est d'être curieux, que je pense que j'ai. Je me suis tapé plein de délires sortis de nulle part. J'ai eu un délire crypto, j'ai eu un délire investissement startup, j'ai eu des milliards d'autres trucs. À un moment, on a fait un compte LinkedIn pour parler de crypto qui s'appelait Jarvis Cryptonium. Autant de choses qui sont des... Souvent plus la marque que ton business principal n'avance pas, alors que tu prends pas assez de plaisir, donc tu dois plutôt redéfinir ton rôle dedans, plutôt que d'essayer d'annoncer autre chose. Désolé hein, pour les petits bruits de bouche. Donc ma politique, c'est assez drastique là-dessus, c'est zéro défocus en perso. Mon principal véhicule d'enrichissement et d'investissement de mon temps, c'est Kudak. Chaque chose que j'investis à côté doit servir Kudak, même si c'est... Vous voyez par exemple le Discord, Road to Scale, ça pourrait être un défocus sur le papier. En vérité, ce podcast, il sert aussi ma boîte. Il est certainement écouté par des prospects. Et Road to Scale, c'est un truc qui derrière a un intérêt pour moi, parce que ça me permet d'être avec des gens motivés, de réussir à atteindre mes objectifs, etc. Parce que vous motivez aussi, hein, vous, en étant dans ce serveur. Et potentiellement, je sais pas, il y a peut-être des fondateurs d'agences qui vont le rejoindre et qui auront envie de monter une agence avec Kudak suite à cette intervention dans le Discord. Donc c'est du défocus-focus en fait. C'est-à-dire que je sais que c'est dans mon divertissement, j'ai du temps pour du divertissement, c'est mon plaisir ce podcast. Et en plus, j'essaie de faire en sorte que mon divertissement il serve un petit peu ma boîte. Parce que c'est ça qui me fait kiffer. Number one. Donc j'ai pas de politique absolue de comment garder son focus. J'imagine toujours que à chaque fois que le temps passe, qu'il y a des trimestres, des mois, des années qui passent, les divertissements ils deviennent de plus en plus durs à contrer. C'est la métaphore d'Alex Hormozy. C'est The Woman in the Red Dress, donc l'exemple de Matrix, hein, où il se retourne et il voit une meuf super bonne dans une robe rouge. Et en fait, il explique qu'à chaque fois que tu t'avances et que ton business y grossit, la meuf en rouge devient de plus en plus jolie. Et à chaque fois, tu as envie de te défocus. La femme en rouge, c'est le défocus. Et bien là, c'est la même chose. Il faut juste en fait se faire une politique, te dire que je n'en sais, ça se trouve, il y a un défocus qui pourrait me permettre de m'éclater, de me rapporter de l'argent ou du bonheur à côté, mais j'ai envie d'être un mec focus, donc. Et en plus, tu me dis, tu en as déjà parlé niveau pro, stratégie de rachat, mais pas à ma connaissance niveau perso. Là, tu me dis investissement, startup, advisory. Donc, pour moi, il faut différencier le pro, tout ce qui va me rapporter de l'argent. Donc, pour moi, investissement, startup, advisory, ça en fait partie. C'est Kudak, c'est rien d'autre. Et après, le perso, c'est des choses où je n'attends aucun ROI du truc. Aucun ROI. Rien du tout. Donc ça va être le running, partir en vacances. Et en fait, Road to Scale, je n'attends pas de ROI de ce truc. Je suis content qu'il y en ait pas les trucs que je viens vous expliquer, mais j'attends pas de... En fait, demain, le truc, si je générais pas d'argent, je le ferai quand même. Voilà. Bon alors peut-être pas parce que ça me prend du temps quand même, donc il faudrait que... Ouais, c'est un bon exemple, c'est en Road to Scale, c'est un petit peu entre les deux. Yes, Control Resell, premier retour sur le serveur, content du lancement, des profils, etc. Alors ouais, je suis super content des profils, on en parlait avec Jules, c'est assez surprenant, on a toujours un peu peur en fait de la population, peut-être qu'il va être drainé par ce genre de choses là. Vous êtes tous super quali, je m'adresse aux 40 membres du Discord, vous êtes tous des brutes d'une façon ou d'une autre, et vraiment je suis pas en train de faire du faux enjaillement. J'étais super surpris. Il y a des gens assez bourrins. Et en fait, j'ai envie d'écouter ce que vous racontez. C'est le meilleur exemple. C'est mon instinct toujours. Je me dis, je lis vos messages. Enfin, je les considère. Vous savez que je suis assez pédant de nature. Non, j'ai dit, par défaut, je ne vais pas accorder de la crédibilité à quelqu'un. En écoutant vos présentations là, pendant le live de ce week-end, j'ai trouvé ça. Je me suis dit qu'on pourrait avoir des discussions intéressantes. Voilà. J'en prends encore quelques-unes. 1h34. Pour quand même prendre quelques questions d'Instagram. Alors, quel est ton talon d'Achille, Simon's Training? Mon talon d'Achille, ma faiblesse. Alors, le talon d'Achille, c'est un peu compliqué parce que c'est le seul endroit par lequel il peut mourir. Donc, j'ai plein de faiblesses. En fait, c'est compliqué de dire ma faiblesse parce que j'en ai des tonnes. Que j'ai découvert principalement justement en essayant de faire des trucs durs. C'est pour ça que je suis très content. Donc, le fait de. Vous savez, c'est plein d'exemples. Hein. Partir trop vite au marathon, c'est un exemple. Faire un peu la baltringue sur le début des préparations et sur la fin, c'est un exemple. Qu'est-ce que j'ai comme grosse faiblesse pour vous dire un petit truc pas trop situationnel? J'ai un niveau de, je pense, de focus, de production qui est très aléatoire. J'ai l'impression que c'est un petit peu, bon, sans que je sois un créatif, artiste, etc., c'est un petit peu comme les artistes. J'ai l'impression que parfois j'ai des inspi, parfois les trucs me viennent tranquillement, parfois ils ne viennent pas du tout. Et c'est chiant parce que quand tu t'imposes de faire un podcast par semaine ou tu dois écrire des vidéos à chaque fois, eh bien, il y a un niveau un peu inégal entre les contenus que tu postes. Je trouve, quand je les re-regarde, mais parfois c'est invisible pour vous. Mais moi, je le vois. Et donc ça, c'est un truc duquel je suis un peu victime. Et donc, au lieu d'essayer de le corriger, j'essaie juste d'adapter un peu mes productions, quoi. Juste produire plus quand je vois que je suis dans un bon moment. J'essaie de produire le max. Et ça me fait penser à un moment, quand j'étais en... Donc, je suis parti en vacances avec... je vous raconte pas le détail, mais en gros, j'étais en vacances et il y avait un pianiste dans la maison qui s'appelait Sofiane Pamar et qui était venu avec son piano. Et on était genre en Italie. Et j'en avais parlé avec un de ses potes, je crois que c'était avec son frère, et qui disait, je me demandais pourquoi est-ce qu'il y avait un piano, est-ce qu'il peut pas genre prendre des vacances sans faire de piano. Et il disait, bah non, mais qu'en fait, quand l'inspiration vient, il y a intérêt à ce qu'il y ait un piano à côté. Et pour moi, ça explique ce truc-là. Alors, ne croyez pas, je me prends pour Sofiane Pamar, mais je pense que c'est valable pour plein de travaux créatifs ou téléproductions. Parfois, t'es bien, parfois, t'es pas bien. Mais je pense que c'est d'ailleurs pas juste pour les trucs créatifs. Il y a des jours où t'es productif, des jours où tu l'es pas. Et les jours où t'es productif, t'as envie de travailler sur tes meilleures tâches. Et voilà. Donc, moi, je sais que j'ai un spectre qui est très, très aléatoire. Il y a des jours où j'arrive à rien faire. Mais je dois quand même faire parce que nous sommes des professionnels. On le fait qu'on ait envie ou pas. Ok. Est-ce que tu t'es fait coacher? Demande Joss Levasseur. Ouais, c'est vrai qu'à la base, je vous avais dit que je l'appellerais Ne vous faites pas divertir, ce podcast. Qui dit après, in fine, c'est un moyen d'éviter le divertissement. Parce que j'avais demandé des questions en rapport avec ce thème. Non, je ne me fais pas coacher. Alors, mais par contre, je ne me fais pas coacher, mais je pense que je consomme plus de contenu ici que tout le monde. Donc, je prends énormément d'inspiration de partout, mais je construis mes propres idées ensuite. J'ai déjà essayé le coaching et j'aime. Je ne prends pas beaucoup de plaisir à avoir quelqu'un qui me dit quoi faire. Donc c'est pas ça me saoule la notion de coach de base. Enfin, les coachs que j'ai essayé, il y en a peut-être des bons que je n'ai pas encore rencontrés. J'aime bien quelqu'un avec lequel je peux avoir des discussions intéressantes et j'en ai pas trouvé trop. Enfin, j'ai l'impression de plus me faire coacher par les discussions que je peux avoir avec Mathieu, Guillaume, Paul. Que chose. Enfin voilà, ça m'apporte des perspectives différentes. Je me fais aussi beaucoup coacher entre guillemets. Coacher, c'est un mot qui est assez large quand même. Coacher. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir de la perspective sur ce que je fais. Et la perspective, je l'ai par des déjeuners que je fais avec des gens. Je l'ai de plein de façons différentes sans avoir besoin de payer un coach. Je ressens pas ce besoin principal. J'ai pas l'impression de progresser particulièrement. Quand j'ai quelqu'un qui est dédié et qui va essayer de dire il faut que je fasse progresser Théo. Même moi, ça met trop de pression. Voilà. Bon, bah écoutez les potes, on va s'arrêter là. Je vais vous laisser pour que vous restiez jusqu'à la fin. Maintenant, je vais mettre une petite citation à la fin. Si je me rappelle pour les prochaines, vous en aurez régulièrement. Merci beaucoup d'avoir été avec moi d'abord. Je vous embrasse. N'oubliez pas d'aller mettre une petite note sur Spotify et je vous laisse sur une citation qui n'a rien à voir avec les idées que j'ai vues aujourd'hui, mais que je trouve cool. Le fort n'est pas celui qui libère son ressentiment, c'est celui qui se libère de son ressentiment. Excellente journée à tous.